When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404. Présenté par l'âme UA.
Bonjour à tous et bienvenue au Tank, chez nos amis du Tank qui nous hébergent pour cet enregistrement de Studio 404. Nous la faisons aujourd'hui en public avec un vrai petit brunch. Je vois chez les nombreuses personnes qui nous ont rejoints dans le public, sous ces wayfarers des yeux à moitié endormis, sous ces petits hauts, ces petits t-shirts vintage, des estomacs qui travaillent dur. Donc on est bien, on est à la cool, mais vous allez voir, chers publics sur place et chers auditeurs, que nos chroniqueurs ne sont pas là pour déconner. Hein, ils vont vous prendre par le col, ils vont vous secouer un petit peu avec quatre sujets. D'ailleurs, je vais les accueillir tout de suite. Il y en a un d'abord qui va vous traiter d'incapable parce que vous avez tout délégué à vos smartphones et à la technologie. C'est Fibre Tigre. Bonjour Fibre. Applaudissements pour Fibre.
Bonjour.
Ça va ?
C'est pas tout à fait incapable, hein. On va dire un changement de compétence, mais.
Ouais, changement de compétence pour dire des choses poliment.
Voilà, c'est ça.
Il sera suivi d'une personne qui, elle, vous dira « Vous êtes des utopistes, vous êtes naïfs à vouloir vous déconnecter d'Internet. On ne peut plus échapper à Internet, vivons avec. » On applaudit Mélissa. Ça va, Mélissa ?
Ça va très bien. J'ai testé pour vous la déconnexion. Voilà. Enfin, presque.
Presque. T'as testé là, ouais. Bon, on en parlera.
La presque déconnexion.
Le troisième, bon, vous serez plus habitué à vous faire agresser puisque le... c'est le mec qui vous plaque contre le mur avec ses chroniques.
Absolument pas. Absolument pas. Je vous ouvre les yeux.
Voilà. Et qui vous ouvrira aujourd'hui les yeux au forceps pour vous dire que vous êtes des acheteurs complètement bêtes parce que vous essayez de trop réfléchir. Je ne sais plus comment ça se passe.
C'est pas ça, l'âme. C'est pas ça.
On peut applaudir Daz.
Merci.
Et enfin, quand vous aurez fini de digérer, que vous commencerez à vous réveiller, il vous assommera avec ce fameux projet de loi sur le renseignement et vous dira « Vous êtes des feignants parce que c'est important, mais tout le monde s'en fout parce que c'est pas assez rigolo. » C'est Sylvain Palais. Salut Sylvain, applaudissements.
Salut.
Donc on va commencer dans quelques instants. Et bien sûr, vous, cher public qui êtes sur place, le temps de vous retirer des bouts de gouda entre les dents, vous pourrez penser à des questions intéressantes et intervenir, bien sûr, si vous avez envie d'alpaguer ou d'idolâtrer un de nos chroniqueurs. Allez, on commence tout de suite avec la toute première chronique et c'est Fibre qui ouvre le bal.
Sujet numéro 1.
Mon smartphone est super, mais je ne sais plus rien faire.
Oh. Bon,
et
Fibre,
oui,
alors
oui. Alors, le journal de 13h de TF1 aime évoquer les petits génies extraordinaires qui manipulent les nouvelles techno avec aisance, c'est-à-dire la nièce de Jean-Pierre Pernaut avec Snapchat. Le panier garni des compétences de base qu'on emporte avec soi le long de notre vie a changé. On a gagné des choses. Par exemple, nous savons surfer sur Internet. Ouais, mais qu'a-t-on perdu ?
Ouais.
Alors, petite liste de compétences qui disparaissent petit à petit de notre paysage français. Donc, on ne sait plus lire une carte.
C'est-à-dire ?
La génération smartphone ne sait plus lire une carte statique. Alors, moi, j'ai vu en ville des scouts avec un smartphone, par exemple. Ouais. Et on est dans une génération minimap, avec la minimap dynamique qui affiche en permanence à la fois où on va et la direction du nord.
D'accord.
Et c'est une façon de penser complètement différente d'une carte en papier.
Voilà. La fameuse carte qu'on n'arrivait pas à replier, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, et puis okay. Il faut trouver le sud, le nord, voilà. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Je suis allé à Belgrade récemment en Serbie. Et il y a le méga octet était d'ailleurs j'ai un truc serbe.
Ouais, très belle veste serbe de fibre qui je pense fait rêver tous les hipsters et toutes les blogueuses modes voilà. Dans cette salle.
Et donc le méga octet de 3G en Serbie c'est 30€. Donc il y avait deux clans, il y avait les vieux qui avaient été élevés avec Doom, donc pas de map, et les jeunes qui avaient été élevés avec Assassin's Creed où il y a une mini map en permanence, et vraiment les jeunes ne savaient pas du tout trouver un restaurant à 300 mètres de là, quoi.
D'accord, donc ils étaient paumés.
Voilà, c'est une perte qui se fait petit à petit. Deuxième perte, on ne sait plus écrire, enfin, ou on ne va plus savoir écrire bientôt, et donc lire de façon cursive, c'est-à-dire écrire avec les petites lettres à la main comme on apprenait au cours préparatoire. Donc la Finlande, le fameux modèle scandinave que la France envie, bon, il faudra modérer, hein, j'espère, dans une prochaine chronique, va abandonner l'étude de l'écriture cursive.
Donc l'écriture à la main, en fait.
Voilà. Même Daz, ici présent, qui a utilisé ses derniers grammes de mauvaise foi dans sa chronique sur le PC, ne pourra pas nier. Il l'a dit qu'il prend ses notes en conseil d'administration, ou je sais pas quoi, conseil technique, en écriture. Il écrit ses F, c'est des grands F, en écriture bâton, Helvetica.
Bah ouais, normal,
voilà.
Quoi.
Normal. On va dans une scolarité, vers une scolarité surinformatisée. Donc, il y a aujourd'hui des écoles au Québec ou en Belgique où l'IPAD est obligatoire et l'écriture cursive, ça devient un alphabet alternatif de secours de moins en moins utilisé. Il va peut-être disparaître et peut-être disparaîtra la graphologie, ce qui est finalement pas un mal. Troisième compétence qu'on perd, mémoriser des informations de façon sèche.
C'est-à-dire de façon sèche.
On mémorise plus aujourd'hui des numéros de téléphone, mais on mémorise des outils qui permettent de retrouver des numéros de téléphone ou des dates ou voilà. Donc on n'a plus cette capacité à le faire. Comme disait Confucius, en refusant de donner son poisson, en apprenant la date d'une bataille, on apprend juste la date d'une bataille. En apprenant comment la retrouver sur Wikipédia, on a les dates de tous les événements.
C'est Confucius qui a
juste
dit ça.
Qui disait ça, ouais.
Oui, il disait ça qu'un poisson, vous savez, poisson pêcheur là, etc. Il y a une différence réelle entre la capacité à mémoriser une information ou à pratiquer un processus. On se retrouve avec des inaptitudes à mémoriser des informations arides comme un simple numéro de téléphone. Alors, j'ai une anecdote personnelle. Il y a des connaissances pratiques qu'on n'a pas, qui sont inimaginables pour la génération précédente. Je vais régulièrement sur cuireunoeuf.fr, un site qui ne donne qu'une seule information, comment cuire un œuf. Okay, je suis incapable de vous dire quel temps il faut pour avoir un œuf dur, mais je suis sûr que sur cuireunoeuf.fr, il y a l'information. Et si un jour les djihadistes ils attaquent cuireunoeuf.fr, bah, je serai obligé de me faire des steaks, quoi, parce que vraiment, je ne pourrais plus faire cuire d'œuf. Voilà.
Toi, t'es vraiment dépendant, toi. Ouais.
dernière information. Alors, dernière typologie de compétences qu'on perd. Donc, c'est un petit peu caricatural, mais il y a quelque chose qui se cache derrière. J'ai mis changer une roue parce que c'est le revers de la médaille du progrès. Avant, on avait une voiture, on regardait le niveau d'huile, on changeait les bougies, la courroie de transmission. En 2015, déjà, on ouvre le capot, la garantie, elle est plus... Elle est plus valable. Il faut un expert Toyota qui dit oui, qui vous fait des bilans spéciaux. Et les équipements se complexifient, mais le service après-vente, il devient une source de profit. C'est-à-dire, moins vous en savez, moins vous savez faire, plus ils vont gagner de l'argent. Voilà, donc il y a un intérêt commun. Et puis, voilà, on se décharge aussi, on peut payer, on achète du temps finalement avec notre argent. Donc, on sait utiliser, pas forcément entretenir sa voiture et de moins en moins la réparer. Alors, j'avais une dernière partie, mais l'âme ce matin m'a dit « Non, il faudrait complètement que tu la changes. » C'était il y a une heure. Donc, je n'ai pas pu l'écrire, bien sûr, mais je vais la dire de vive voix. Donc, dans le fond, la mutation des compétences, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est-à-dire qu'on va être amené, même dans 10 ans, à encore oublier les choses qu'on sait aujourd'hui, comme la carte dynamique, et on aura une autre façon de se repérer dans l'espace. En revanche, perdre des compétences, c'est aussi perdre une agilité mentale qui est associée à la compétence. C'est-à-dire que savoir, ça nous empêche, ça nous enlève une façon de penser qui est particulière, même si on ne l'utilise pas. Et j'ai un exemple pratique et un phénomène de résistance par rapport à ça à donner. C'est que dans le monde du jeu vidéo dans lequel je travaille, il y a un langage de programmation qui est en train de s'imposer parce qu'il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de travail de lobbying dessus qui s'appelle Unity. D'ailleurs, ils ont un nom un petit peu de secte. Et c'est le langage que tout le monde pratique.
Moteur très populaire en
ce moment. Voilà, financièrement, graphiquement, enfin sur tous les plans, ça va être le moteur vraiment qui va s'imposer. D'ailleurs, à tel point que l'Unreal Engine a des problèmes. Et là, il y a des programmeurs qui, face à cette super hégémonie, eh bien, ils continuent, ils sont obligés de coder en Unity parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils pratiquent aussi un autre langage à côté pour conserver une agilité mentale, parce qu'ils disent, si on a toujours les mêmes systèmes, on aura toujours les mêmes problèmes, on aura toujours les mêmes réponses, et c'est la fin de la créativité. Donc on est, ils se forcent à faire autre chose.
C'est un peu comme au collège, ceux qui faisaient latin ou grec, c'est ça ? Qui ouais. Une sorte de langue.
Le latin et le grec, parce que c'est un débat au cœur de l'actualité en ce moment, eh bien, ce sont des compétences qui aident à autre chose que savoir parler le latin grec, qui n'est pas fondamentalement pratique au premier abord, mais ça donne une agilité mentale différente de ce qu'on fait avec des activités tous les jours. Voilà.
D'accord, donc tu penses qu'on va tomber dans une sorte d'obésité mentale ?
Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui résistent mentalement, mais c'est bien de faire des petits bilans. Et de dire, bon voilà, ça je savais le faire, ça je sais plus le faire, qu'est-ce que j'ai perdu ? Et peut-être c'est le moment de s'y remettre. Voilà.
Alors pour Fibre, on est en train de s'empâter, on est en train de devenir complètement assisté, on consomme beaucoup plus, on touche à beaucoup plus de choses, mais en fait on les manipule moins, on les comprend moins, et on perd des talents.
J'ai un terme pour ça, moi.
Ah, attention Daz, c'est-à-dire ?
Non, ça implique aucun problème de chromosome. J'appelle ça la consolisation de la société.
La consolisation de la société. On va revenir dessus ou pas sur le PC et la console ?
Non, mais enfin bon, force est de constater que finalement, il arrive au même point que moi, quoi. Il arrive aux mêmes conclusions, c'est qu'on devient un petit peu, on consomme tel que c'est packagé, et puis il faut surtout pas essayer de comprendre comment ça fonctionne, et puis on est très limité sur tout ce qu'on peut faire derrière, en fait.
Tu t'es déjà retrouvé en détresse quand t'avais plus la technologie avec toi ? En disant, oh.
Non, parce que moi j'étais scout.
Toi, t'as été scout, toi ?
Moi, j'ai été scout.
Toi, t'as été scout. Ouais. Ouais. Je viens d'avoir une vision.
Vous êtes tous des Mongoliens.
Donc, moi, je sais faire des tables à feu, je sais calculer des azimuts et me démerder avec une boussole. J'ai pas de problème pour ça. Moi, vous me filez du bois.
Non, mais surtout, avant d'être scout, Daz est vieux.
Pas tant que ça.
Tu as connu l'ère pré-smartphone.
Ouais, mais toi aussi.
Ouais.
On a connu.
Parce que toi, t'es provincial.
Internet.
Donc non, moi, j'ai pas trop de soucis avec des changements de roues ou des problèmes de cartes.
Parce que c'est quelque chose qui t'appartient, ou parce que comme dirait Fibre, tu t'entretiens, tu te dis, ok, il faut quand même que j'arrive à rester un peu dépendant des choses, que je continue à apprendre des choses, que
ça,
je continue à réfléchir, que je continue à rester agile mentalement, comme disait Fibre.
C'est pour ça que, enfin, il y a un peu de ça, c'est pour ça que je joue à Arma. Qui justement te permet de savoir lire une carte et
utiliser une boussole.
Voilà, et calculer des azimuts.
Donc toi, ouais. C'est passion azimut.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même important, je me dis, de temps en temps, comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passerait si demain une bombe nucléaire éclatait sur Paris ? Tu aurais plus de fixie déjà, ça c'est le premier problème. Mais
est-ce que tu sais fabriquer un arc du coup pour chasser le lapin à Paris ?
Ouais, mais c'est surtout les pièges, les collets en fait qu'il faut. C'est plus facile pour le lapin que l'arc.
Wow. Ouais, donc en cas d'invasion zombie, Daz,
petite masterclass de
simplement pour vous dire que vous faites tous des métiers qui sont un petit peu abstraits, qui fonctionnent parce qu'il y a de la technologie. Sachez qu'on vous mangera en premier. Quand il faudra des maçons et des architectes,
le marketing,
des trucs comme ça.
Sylvain, c'est mal.
Voilà, ça servira que dalle d'être toujours, expert marketing ou d'être community manager. Si ça, community manager, ça peut être aider un petit peu.
Ouais, pour reconstruire des communautés.
Voilà, mais de temps en temps, c'est un petit challenge comme ça. Je me dis, si jamais demain j'ai plus ça, qu'est-ce que je fais ?
D'accord.
Je rêve d'un Koh-Lanta avec que des métiers du numérique. Un community manager qui est là, non les gars, là, il faut vraiment se mettre ensemble, il faut qu'on fasse des petits RT et tout, c'est cool. Franchement,
on va faire une réunion, un stand-up meeting, c'est ça, ensemble sur la plage.
Bah ouais, on fait un kick-off meeting pour savoir si on chasse la dorade ou le lapin. Qu'est-ce qu'on tue en premier ?
Sylvain, est-ce que tu sens des fois que tu t'appuies sans te rendre compte, mais de plus en plus sur les technologies ? Le débat le plus connu étant souvent le savoir, où on dit qu'effectivement maintenant on a le savoir, donc on n'apprend plus rien, donc finalement comme on n'apprend plus rien, on est peut-être moins intelligent, etc., etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses, voilà, le sens de l'orientation, la réflexion, l'écriture, enfin plein de talents qu'on a eu, qu'on nous a appris, qui sont en train de devenir obsolètes ou que tu es en train d'oublier ?
Bah, c'est toujours la même distinction qu'on a déjà fait dans des émissions précédentes, c'est la différence entre la connaissance qui est à portée de main et savoir connaître, savoir utiliser les connaissances. Et si on a été bien éduqué, si on a bien appris les choses à l'école, moi je pense qu'on peut servir des outils qui sont à notre disposition et utiliser Google Maps de façon totalement optimale. Et le jour où on n'a pas Internet, le jour où on n'a pas de smartphone, eh ben on est assez intelligent pour être en capacité de comprendre comment fonctionne une carte, quoi.
Donc toi, tu penses qu'il y a on a des acquis qu'on peut maintenir d'une certaine manière.
Ouais, moi je pense que dans 20 ans, même si tout le monde, toute la planète a des smartphones et Google Maps, le jour où il y a plus d'internet, on saura quand même utiliser une carte.
Il y aura plus de cartes.
Il y aura plus de papier.
C'est le problème.
Ça, je suis pas sûr.
Donc toi,
ça,
toi t'es plutôt rassuré. Tu penses que t'es assez optimiste sur la question.
Ouais. Et au pire, si on délègue vraiment des compétences à la machine, tant mieux, ça laisse plus de place pour autre chose.
D'accord.
Comme donc... la télépathie, par exemple.
Les théories de Sylvain Tellier.
Mélissa, est-ce que tu te sens parfois un peu dépendante et tu sens que t'as délégué des choses
En fait, j'ai vraiment perdu la mémoire.
Ouais.
Parce que je sais que je peux tout avoir à disposition.
Tu te rappelles encore des numéros de téléphone aujourd'hui quand
on
te parle ou pas?
Non. Genre, je pense que je dois savoir un numéro de téléphone, celui de mon père, mais c'est tout.
D'accord.
Alors que, enfin, j'ai quand même des proches
je me rappelle et je devrais. Celui de mes potes d'enfance, moi, c'est incroyable.
Ouais. Non, mais j'étais l'autre jour à Bruxelles, je devais noter un numéro de téléphone et donc je me suis dit, attends, je vais le copier, le mettre dans notes, machin, au lieu de m'en souvenir. Et j'arrive et j'ai essayé. Après, je me suis dit, non, souviens-toi-en, et j'arrivais pas.
Ah ouais, donc.
Genre vraiment, il a fallu que je le reconsulte trois fois. Et je me suis dit, mais putain, j'ai perdu la mémoire. Après, je suis assez consciente que oui, du coup, je développe des savoirs de comment utiliser. Enfin, tu vois, je vais aller chercher sur Internet et chercher des trucs beaucoup plus complexes que me souvenir de trois chiffres, en fait. Et ça, du coup, ça me fait pas vraiment peur, quoi.
Donc ça, c'est
de
pas
perdre
peur.
Des choses pour gagner d'autres.
Des trucs beaucoup plus complexes comme.
Bah, je sais pas.
Ouais, c'est ça le problème.
Comme t'es dans la rédaction de choses, est-ce que, par exemple, au niveau de l'orthographe et de la grammaire, tu es obligé de. Enfin, sans correcteur d'orthographe.
Non, parce que non. Sans sourciller, pas... donc. La grammaire, c'est mort. Ça m'a choqué un peu.
Putain, malaise.
De quoi ?
Souviens-toi-en.
Ah oui. Ouais. Tout ira bien.
Ah non, mais par exemple, c'est intéressant sur cette histoire d'écriture et de grammaire.
Le correcteur orthographique, ouais.
Je me rends compte que le correcteur orthographique m'assiste de plus en plus. Je pense savoir toujours écrire, mais c'est vrai que quand je fais une faute, je la corrige pas parce que je sais qu'elle va être corrigée automatiquement.
Non seulement ça, mais en plus, ouais. Comme il y a énormément de contenu qu'on lit tous les jours qui est produit par, on va dire, des amateurs sur le web, eh bien, et je parle pas de la. Enfin, je traite pas des journalistes amateurs. Je dis Twitter, ce sont pas des rédacteurs professionnels, on va dire. Donc, du coup, on voit peut-être plus autant de fautes que de choses vraies. On voit un mot mal orthographié autant de fois que bien orthographié. Donc, ça peut altérer notre mémoire.
Non, mais par exemple, moi, le sens de l'orientation, je l'ai parce que, c'est un truc que j'ai et. Autant il me faudrait peut-être une carte si je l'avais pas, autant la mémoire c'est plus difficile à la cultiver. Du coup, j'ai un peu plus renoncé à la mémoire, mais il y a des trucs que je sais que tu vois, je vais pas perdre quoi. On va pas perdre des compétences non plus.
Juste à main levée dans le public, qui mémorise encore des numéros de téléphone quand il détient un nouveau contact ? Ok.
Une personne.
Okay. Une seule personne dans la salle qui maintient encore des numéros de téléphone. Qui pense qu'il s'appuie un petit peu trop sur son correcteur orthographique maintenant qu'il y repense ?
Ah, personne ?
Vous n'êtes pas honnête.
Vous êtes menteur.
Ah, ça commence à se lever un petit peu les mains.
Non, mais de toute façon, on n'écrit plus, plus avec un stylo. Enfin,
c'est vrai. Quand même un petit peu.
Ah, bah, aujourd'hui, voilà, il y a un monsieur qui sort son stylo. Mais est-ce que c'est pas un stylo de hipster de collection ?
Un truc en aluminium.
Est-ce que c'est pas un fixie, il n'y a qu'une seule couleur ?
Non, mais en fait, on écrit beaucoup plus, je trouve, avec le numérique que les générations précédentes. On produit vachement plus de contenu écrit, mais par contre, on le produit avec un clavier et beaucoup moins avec un stylo qu'avant.
Ça
rejoint ce que tu disais sur l'écriture cursive qui disparaît.
Et je comprends pas pourquoi DAS n'utilise pas l'écriture cursive, par exemple, parce que c'est 10 fois plus rapide.
Ouais. Je l'utilise. En fait, moi, j'ai essayé plein de trucs justement pour prise de notes, etc., en réunion, un peu comme ce que Mélissa. Pour chasse dans sa vie et l'outil parfait vraiment qui répond à tous les problèmes. Et là je suis revenu, j'ai lâché Evernote, en fait je suis revenu à l'écriture sur un cahier, parce qu'en fait quand tu écris tu mémorises en même temps,
ça c'est vrai.
Et je me rendais compte que en me reposant sur Evernote uniquement, tout ce qui était jalon, date à respecter, deadline, etc., en fait je l'ai mémorisé pas. Donc tel projet, c'était quoi la date, c'était aujourd'hui, bon bah voilà. Et je suis revenu, je me suis forcé, donc j'ai pris un cahier à spirale et un stylo et je me fais des checkbox.
Mais ça me fait penser tu quittes Evernote pour passer sur le papier, ça me fait penser aux gens qui utilisent des agendas, des vrais agendas papier.
Ouais, ça c'est incroyable.
Et ça c'est incroyable. Ouais, moi je trouve ça incroyable. Il y a rien de moins pratique qu'un cahier sur lequel tu écris tes rendez-vous.
Ton cahier ne fait pas de reminder,
tu les barres, tu les reportes, tu les effaces.
C'est sûr que pour les notifications, ton agenda, tu peux.
Ouais, c'est nul.
Moi, le public ne sait pas que Sylvain, tu as une relation très intime avec Google, ce qui fait que Google. Non mais Google appelle Sylvain et dit.
Google est en toi.
Google Sylvain a dit le 27 mai à 18h, tu dois aller à ce rendez-vous et je te conseille de prendre ton vélo et de faire ça. Donc il a une organisation qui est très très poussée.
Plus qu'un agenda, c'est devenu un coach.
Voilà, c'est ça. Donc on est loin de l'agenda papier.
Non, mais c'est vrai que sans l'agenda de Google, sans cet outil numérique qui supplée à ma mémoire, moi je suis complètement paumé quoi.
Donc là-dessus, tu rejoins un peu Mélissa, c'est que sur la mémoire spécifiquement, il y a quelque chose, on a vraiment délégué une partie de notre gymnastique mentale.
La gymnastique mentale, je sais pas. La mémoire, c'est sûr. Je fais de la place dans ma tête pour la mettre sur un agenda ou sur le numérique. Après, la gymnastique mentale, je pense qu'elle est toujours présente parce que elle fait partie de l'éducation et tu l'apprends à l'école et quand t'apprends les maths, et ben oui, le théorème de Pythagore ça sert à rien dans ta vie, mais ça t'apprend à réfléchir et
c'est
ça t'apprend.
C'est hyper important, hein. Surtout en informatique. Hein. C'est.
Ok, d'accord.
Pour avoir distance entre deux points sur un écran, okay, c'est Pythagore.
Ok, tu m'expliqueras à quel moment tu utilises le théorème de Pythagore dans ta vie, mais savoir en fait ce que ça représente et comment ça fonctionne, en fait, ça te permet de former ton cerveau à avoir un état de réflexion, quoi, tout simplement.
D'accord. Dernière question pour vous. Imaginons que dans 20 ans, on suit la tendance et on va extrapoler à cette tendance. Les gens ne sauront rien d'autre que d'utiliser un équivalent de smartphone ou de smartwatch ou un appareil qui va quasiment tout faire pour eux et qui, comme on le voit avec des systèmes comme Google Now, va leur suggérer ce qu'il faut faire, va croiser toutes les informations pour nous aider. Est-ce que c'est un avenir que vous trouvez beaucoup plus pratique d'une certaine manière et qui est logique, ou c'est quelque chose qui vous fait peur?
Bon, Daz, il a peur.
Cette question, non, mais pour moi, ça n'arrivera jamais parce que.
Ah oui, tu penses pas, Daz?
Non, parce que justement, quand toutes ces pratiques-là seront d'un autre temps, on aura plein de mecs qui décideront de le faire pour être d'un autre temps. C'est le côté vintage un peu.
Oui, mais ça, c'est comme les mecs qui achètent des vinyles, il y en a.
Exactement. Bah ouais, mais il y en a. Les mecs qui roulent en fixie alors qu'on a inventé la roue libre au 3e siècle. Voilà, donc, si en 2015, il y a encore des gens qui aiment en fait vivre au Moyen-Âge, je pense que dans 30 ans, quand officiellement, t'auras peut-être pas même sous la forme d'un smartphone, peut-être une puce que t'auras quelque part, machin, etc. Ouais. Je sais pas où, que t'auras et qui fera tout pour toi et qui pensera à ta place, etc. Je pense qu'il y aura des gens qui naturellement se mettront à acheter des Moleskine et des petits stylos en aluminium du Montana pour pouvoir écrire leurs pensées comme ça, parce que c'est important, tu vois. Non, vraiment, je pense que ça
partira
jamais.
D'accord. Donc toi, tu penses que ça partira jamais. Ouais. Mélissa?
Bah, j'y crois pas trop non plus, parce que, enfin, je veux dire, il y a quand même des choses qu'on sait et sur lesquelles on se repose sans avoir besoin d'un outil pour les faire.
Oui, on sait, parce qu'on a une éducation qui risque de changer. Fibre parlait de.
Oui, mais t'apprends des trucs dans la rue.
Enfin, d'écriture cursive,
là, tu passes, tu vois le nom de la rue, parfois tu vas le retenir juste parce qu'il s'est passé un truc de fou dans cette rue, tu sais, ah, c'était rue machin.
Est-ce que quand tu vas en soirée maintenant, tu t'y retrouves? C'est le premier truc que tu fais, c'est que tu sors quand même ton smartphone pour trouver l'adresse exacte. Ou est-ce que tu te dis, tiens, il y a cette rue qui coupait?
En général, je l'ai pas noté, donc je me rappelle du truc, mais après, si on me dit, il y a une soirée dans tel lieu, je me souviens que c'est dans telle rue et j'ai pas besoin de, tu vois.
D'accord.
Je pense pas que on va tuer complètement toutes nos. Enfin, ça serait tuer le fonctionnement d'une partie de notre cerveau, quand même, en fait.
Oui, bah comme aujourd'hui, comme tu dis, la mémoire, elle est, il y a une ablation
de la mémoire.
Oui, mais
en partie, tu vois, j'ai quand même des souvenirs, des trucs. Enfin, tu vois, on va pas tuer nos souvenirs, par exemple.
D'accord. Ah non, ça, j'espère pas. Sylvain?
Mais moi, j'ai des amis sans smartphone. On revient, ce sera sur ta chronique, bien sûr, mais j'ai des amis sans smartphone qui, du coup, sont obligés de me solliciter en soirée.
Tu peux ouvrir
ce que c'est
pour
embêtant,
moi.
Ces gens qui sont obligés de te solliciter en soirée.
C'est vrai, c'est genre, ouah, j'ai reçu un message, on a une soirée à telle adresse. Je sais pas du tout où c'est. Est-ce que tu peux me dire, sors ton smartphone et ouvre Google Maps, quoi.
Ah, donc eux, ils ont pas de smartphone pour ils faire genre, non, mais en fait, ils ont un ami qui a un smartphone, donc en fait, ils délèguent par l'intermédiaire.
Mais ils se débrouillent, en fait. Ils s'en foutent. C'est pas un problème. C'est, s'ils se retrouvent et que moi, je suis pas à la même soirée qu'eux et qu'ils ont pas de smartphone pour regarder la map, c'est ben, ils vont faire autrement, tu vois.
D'accord.
Et ils ont
mais
pas
de toute façon, ils seront jamais dans la même soirée, puisque s'ils ont pas de smartphone, ils ont pas Facebook, et s'ils ont pas Facebook, personne les invite.
C'est exactement ça. Ils ont pas les événements.
Fibre.
C'est un peu triste, mais toutes les choses aujourd'hui qui font partie de notre quotidien et qui on a un petit peu à cœur, comme trouver son chemin sur Google Maps, à mon avis, elles vont disparaître. Ce sera juste différent. Mais donc, ce monde familier sera différent. Je vois par exemple, à titre personnel, j'avais développé l'année dernière des techniques de Sioux très particulières pour toucher des YouTubers. Et aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité parce que ça a complètement changé. Donc, tout ce savoir-faire, j'aurais pu écrire un livre, devenir célèbre. Et en fait, pas du tout parce que c'est perdu dans la nature. Donc, on a un monde qui change et il faut s'adapter.
Très bien, très bien. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui. Oui, alors il y a une personne ici là, qui va prendre le micro, monsieur. Qui ont un avis par rapport à ce qu'a dit Fibre et ce qu'ont dit nos chroniqueurs sur cette sorte, peut-être de, pas de régression, mais donc de fainéantise mentale et du fait que ça se déplace hors de nous vers les technologies.
Oui, je voulais revenir au terme mutation des compétences qu'avait dit Fibre. Certes, maintenant, on délègue certaines choses, mais est-ce que c'est pour autant qu'on savait les faire avant, c'est-à-dire que les numéros de téléphone, même avant le smartphone, j'en retenais 3-4 et pas plus? Pareil pour la carte. Je sais que beaucoup d'amis à moi, mais moi-même, j'arrivais pas vraiment à lire sur une carte. C'est toujours le cas avant les smartphones et même maintenant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment finalement une mutation? Est-ce que les choses n'étaient pas aussi difficiles avant finalement? Et certes, elles sont plus faciles, mais c'est pas pour autant qu'on savait les faire mieux.
Mais normalement,
avant.
En fait, d'accord. Pour répondre à cette question de manière directe, si on n'avait pas eu les smartphones, les gens comme toi seraient morts. Parce que la sélection naturelle aurait fait que vous seriez perdu, on n'aurait jamais retrouvé vos corps, en fait. Donc, quelque part, le smartphone, c'est une béquille qui permet, tu vois, de faire survivre des gens qui, ne sont pas prêts à affronter le monde.
Qui ne méritent pas de vivre, c'est ce que tu es en train de dire. C'est horrible.
Je plaisante.
Non, mais c'est intéressant parce que d'une certaine manière, ce que dit monsieur, on n'a pas son prénom du coup malheureusement, Nicolas. Donc ce que nous disait Nicolas, mais ce qui est intéressant, et je vais le prendre l'inverse, un peu le côté plus bisounours, c'est que justement des gens qui ont peut-être des lacunes ou qui n'étaient pas forcément doués dans quelque chose, du coup ça leur permet de... Alors, réintégrer la société, le mot est quand même fort, mais survivre, le mot est encore plus fort. Mais du coup, de se dire, bah, effectivement, je suis une tanche pour lire une carte, et bah, du coup, et bah, c'est plus un problème aujourd'hui, c'est cool. Et donc, en fait, ce qui était un problème ne l'est plus. D'une certaine manière, c'est plutôt positif, non?
Enfin, sur quoi on juge après?
Tu veux dire que la technologie fait du monde un meilleur endroit?
Oui. Bah, après, il y a Daz, le survivaliste scout, je l'extrême avec deux machettes. Mais...
Je suis d'accord avec Nicolas. Là, ce genre de choses, ce genre de béquilles, comme tu les appelles, sont en fait une jambe supplémentaire même. C'est une extension qui nous permet d'être plus intelligent et d'avoir plus de choses.
Oui, mais tu vois, non, c'est pas vraiment une jambe supplémentaire parce que demain, bon, je parlerai pas de catastrophe nucléaire. Disons que s'il y a une impulsion électromagnétique qui fout en l'air toute l'électronique.
Ouais.
Bah, ta jambe ne marchera plus. Donc c'est pas une jambe au sens où toi tu l'entends, c'est vraiment une prothèse.
Mais bon, oh là là, si on a une tempête de sauterelles qui s'abat sur les récoltes.
Je sais gérer. En plus les sauterelles c'est super protéiné les sauterelles.
En poussant ton raisonnement au maximum, tu pourrais dire dans ce cas-là l'Amérique prend le contrôle du monde parce que eux ils ont chacun un fusil dans leur maison et pas en France, tu vois.
Qui est une technologie.
Le jour où ils se coordonnent, le problème c'est que comme ils sont contre ça, ils vont pas se coordonner sur internet les mecs. Mais quand la télépathie sur laquelle travaille Sylvain,
on va trop loin.
Les mecs pourront se coordonner, oui, et effectivement, c'est là qu'on fera la différence entre celui qui a un pistolet chargé et celui qui creuse.
Putain. T'es vraiment en mode survivaliste ce soir. Hein.
Oui, ce soir.
Walking,
oui.
C'est Walking Daz.
Ce soir.
Aujourd'hui,
ce soir.
C'est Walking Daz. Est-ce qu'on a une autre intervention, une personne? Alors, il y a une personne ici. Alors, allons-y.
Bon, moi, je vais retourner sur mon cheval de bataille. Hein. Je vais parler du TEDx Paris de l'année dernière.
TEDx Paris, donc les conférences avec des gens très inspirants.
Exactement.
Qui changent ta vie.
Et donc, il y avait deux TEDx en opposition. Donc, il y avait la vision de Laurent Alexandre qui, lui, prônait le transhumanisme à tout craint, c'est-à-dire que...
Donc le transhumanisme, on parle du moment où...
L'homme et la machine vont fusionner, en fait.
Okay.
Et du coup, à la fin de son TED, un autre intervenant prend le contre-pied en fait, de ça. C'est Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction lyonnais, qui, offre une vision totalement différente. Il parle de transhumanisme, en fait. C'est-à-dire, il s'appuie sur la philosophie de Gilles Deleuze, qui en deux mots, c'est-à-dire...
Deleuze en deux mots, c'est parti. Ah,
c'est parti. Qui oppose la volonté.
Choisis bien.
C'est pile dans la chronique de Fibre. C'est-à-dire que c'est la volonté de puissance contre le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que la technologie nous donne des pouvoirs. Faire du feu réparer un vélo, c'est être dans la puissance, en fait.
Exactement.
Et donc, en gros, il prône un espèce de retour à la puissance, en fait, et d'essayer de pas rejeter totalement la technologie, mais de garder un savoir-faire exactement, une puissance personnelle en fait.
Lié au cerveau sans aucune aide.
Voilà, c'est
Du coup, on peut retrouver dans une fracture, parce que Nicolas nous en parlait, tout le monde n'est pas égal par rapport à certains talents, certaines bases de connaissances. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a transhumanisme et transhumanisme.
Ouais,
c'est un jeu de mots d'ailleurs.
Exactement.
Okay, très intéressant.
Après, Sylvain. Pour paraphraser Daz, c'est pas de notre faute s'il y a des Mongoliens. Quoi.
tu
me permets. Hein,
oui, mais bien sûr. C'est
ils prennent tellement cher. Une toute dernière intervention avant de fermer le débat. Je voyais quelqu'un qui voulait prendre la parole. Voilà. Juste ici.
Moi j'ai dans la main un petit truc qui s'appelle une boussole. Et
tu te balades avec une boussole.
Je me balade avec une boussole. Jusqu'à pas très longtemps, j'utilisais que Google Maps pour me repérer. Jusqu'au jour où en fait mon téléphone est tombé en rade en plein milieu de Paris.
Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé
pas où aller.
Tu t'es mis en position fétale.
J'ai fait la tournée des bars pour essayer de retrouver mon chemin. Et ça m'a traumatisé.
Tu as fini complètement bourré.
Ça m'arrive.
Perdu mais bourré.
Non, c'est très intéressant du coup. Donc maintenant, tu as une boussole. Tu te balades avec une boussole.
Au final, maintenant, j'utilise toujours Google Maps, mais juste en fait, je repère la direction que je dois prendre par rapport à mon point d'arrivée. C'est-à-dire que je regarde métro Bastille, le tank c'est à l'est. Bon d'accord, alors je vais marcher vers l'est et je vais faire trois rues.
Mais donc, ça, en gros, c'est fou.
Ça c'est très bien.
C'est fou de pas utiliser le soleil à ce moment-là, puisque. Non, mais c'est vrai.
Je vais bâtiment le masque.
Si t'es soleil, tu peux même respirer un petit peu et dire tiens la Seine c'est par là-bas, tu vois, avec l'humidité et voilà.
Et mais d'une certaine manière, enfin, fibre te troll dessus, mais parce que Daz tu dis oui on peut faire ceci cela, mais c'est aussi des technologies. La boussole est une technologie.
Oui, mais c'est une technologie qui dépend de rien, à part si il y a une inversion des pôles magnétiques. Normalement, ça fonctionnera même sans électricité, sans rien quoi.
Ouais, mais t'en rêves, ça, encore d'un cataclysme avec une inversion des pôles.
Non, ça me ferait chier. Non, ça serait très chiant.
Ouais, c'est quand même intéressant.
Voilà, et du coup, bah, en fait, ça me fait réfléchir en me disant que c'est une grosse opposition entre compétences et information cognitive. C'est-à-dire que j'externalise toujours les compétences cognitives. Je retiens jamais les dates, je retiens jamais précisément là où je dois aller, etc. En revanche, je développe à fond les compétences. J'en développe plusieurs, lire une carte Google Data, lire une carte avec une boussole, etc., pour pallier aux différentes problématiques. Donc du coup, je pense qu'on va plus s'orienter vers un multiple apprentissage des compétences pour compenser, en fait.
Oh, très bien. Ah ben, c'est intéressant, du coup.
100% ouais, d'accord avec cette personne.
100% d'accord avec cette personne, ouais. Sylvain. Mélissa, d'accord ou pas d'accord avec cette personne?
Bah, bien sûr.
Bah oui.
Développons.
Donc, vous allez sur cuir9.fr.
Après, moi, la boussole, je comprends pas trop. Enfin, j'aurais plus choisi de retenir le nom des rues.
Non, mais vous savez combien de temps il faut pour avoir un œuf dur ou pas?
Ouais.
C'est quoi, c'est 12 minutes?
Œuf dur, c'est 9 minutes.
Ah bah, ouais, 12
minutes, 9 minutes. 9
minutes.
Là, il y a 10 minutes.
Œuf à la coque.
Donc, attendez, donc là, il y en a 3 minutes, 9 minutes, 12 minutes. Donc, en gros, aucun des chroniqueurs, c'est cuir 9 dur.
9 minutes.
C'est du joli. Bon, bah, voilà. L'avenir sera une humanité augmentée avec des tutos YouTube intégrés partout pour apprendre des choses. Ça me fait rêver en tout cas.
Très humanisme.
Merci Chip. Allez, on attaque la première FAQ.
FAQ.
C'est le moment où je me tourne vers toi, public en train de digérer, qui fait genre qui s'intéresse. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ici dans l'assistance a une question à poser à nos chroniqueurs? Monsieur. Ah, qui est très actif. Il y a toujours un mec qui est très actif.
C'est Nicolas ?
Mais c'est Nicolas.
Pour rigoler un peu, si vous aviez le pouvoir, un peu à la Death Note, de supprimer un site internet de l'univers web et inversement d'en ressusciter un service ou une application qui a disparu, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, est-ce que comme dans Death Note, on doit écrire la cause de la mort ou pas ? Pour vraiment aller jusqu'au bout.
Éventuellement, oui, c'est plus marrant.
Très bien, très bien. Alors, si vous pouviez tuer un service web... avec un papier et un crayon, donc il faut savoir écrire hein, quand même, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait plus tous écrire. Si vous pouvez tuer un service web en écrivant la cause, discretos, est-ce que vous auriez une cible? Un seul, Daz, hein, parce que je te vois toi essayer de supprimer la moitié de l'humanité. Ouais, là.
Pour troller, j'essaierai de supprimer Google juste pour voir ce que
ça... Chiant. Non, mais c'était mon idée, merde.
Le vrai truc, moi, ça serait un truc genre F de souche.
Ah oui.
Tu vois, tu le supprimes, tu mets cause... connard.
Non mais il y en aura un nouveau dans la seconde.
Et la liberté d'expression alors.
Plusieurs lignes sur ton calepin. Hein ?
Et la liberté d'expression alors.
Oh là, attends,
pas mais très Charlie tout ça. Hein.
Oui, c'est vrai. Je le regrette. Non ouais, je pense à F de souche parce que le site en plus est pas très très bien fait. Enfin, j'aime.
Oui, c'est surtout pour ça.
Ouais, le design est merdique. Quoi.
Voilà. Qui de quoi ? Sylvain.
Un gros site, pareil, genre Facebook.
Ouais,
pour foutre la merde, pour redistribuer les cartes, tu vois.
Pour voir s'il y a
un réseau social français qui peut émerger sur les cendres de Facebook.
Facebook Phoenix AGO.
Phoenixo.com, Phoenixo.fr. Tu vois, sur les cendres de Facebook. Et si je devais en ressusciter un, ce serait Google Wave.
Ah, Google Wave, l'incompris.
Mais pourquoi?
L'incompris. On pense à toi, Google Wave.
Mais ouais, c'est le petit enfant autiste rejeté par ses camarades. Google Wave, il est
Asperger. Asperger,
pardon. Ça ne servait pas vraiment.
Tendance bipolaire. Non, mais pourquoi tu rigoles?
Google Wave, c'était génial.
Google Wave, l'outil est génial. Mais d'ailleurs, c'est un autre.
On n'était pas prêt. L'humanité n'était pas prêt.
Mais on l'a maintenant dans plein de nouveaux services. Google Drive, l'écriture instantanée, ça vient de Google Wave.
Slack aussi, ça ressemble un peu.
Slack aussi.
Bien sûr. Très bien. Fibre.
Wanadu.
Si je voulais faire du bien à beaucoup de gens et à l'État français, je dirais, je supprimerais Google Actualité. Là, il y a.
Ah, Google, il prend cher quand même.
Non, mais Google Actualité, là, il y a Mélissa. Enfin, je veux dire, si on enlève Google Actualité, je veux dire, la presse se modifie tellement sur Internet. Elle fait pas non.
Non, mais il y en aura un autre. Enfin, tu vois.
Non, mais.
Sous-entendu, il n'y a pas de remplaçant, on va dire.
Voilà, sous-entendu, il n'y a pas de remplaçant. Si tu supprimes Google Actualité, il se passe quelque chose de très important économiquement et au niveau de la presse. Et pour ressusciter, il y a plein de petites choses. Je pense à MSN, tout ça, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien revoir,
ouais.
Parce que ça me touche beaucoup. C'est les newsgroup Usenet, qui étaient avant regroupés sous Google Groups.
Ouais.
Aujourd'hui, ça marche plus du tout parce que Google, on dirait qu'ils ont pris ça en main pour le jeter un peu à la Sony.
À la
quoi.
Google. Un peu.
Ouais, voilà, c'est ça. Et notamment, Google avait ouvert un musée des posts historiques, la première fois qu'un post parle de Madonna, la première fois qu'un post parle du sida, l'arrivée du sida sur internet, c'est-à-dire on dit tiens il y a des mecs qui tombent malades, tout ça. Ouais. Ah oui, c'était extraordinaire. La première fois, il y a un mec, le premier post, le mec dit je suis allé voir un film hier, le Retour du Jedi, très bien, tu vois. Ouais. Retour du Jedi, post de 85, c'est formidable. Ouais. Et donc ça, tout ça, ça a disparu et c'est, ou alors ça doit exister, mais c'est pas du tout mis en valeur. Ça, j'aimerais bien que ça revienne.
Ouais. D'accord, très bien. Mélissa, est-ce que tu pourrais, si tu pouvais tuer un site d'un coup de crayon ?
Sur un site de médias, parce que vous savez que je suis pour la fusion de certaines rédactions web.
Ouais.
Donc je vais pas donner de nom de site qui servira à rien.
Balance. Parce
que... Tu peux les dire, mais on fera bip.
Je pense que ça va très bien marcher. Non, mais oui, je pense qu'il y a. Enfin, ça découle du problème de Google Actualité, mais il y a trop de sites d'infos, donc j'en tuerais un, voire deux, voire trois.
Sans les citer, c'est peu.
Sans
petit.
Les citer.
Est-ce que c'est un site à la BuzzFeed, pour savoir ?
Non.
Ok, bon.
Non, parce que ça, c'est différent. Moi, mon problème, c'est qu'il y en a plein qui sont exactement pareils. Donc, ça sert à quoi d'avoir trois sites qui font les mêmes news la même façon?
Je suis d'accord, il n'y a pas assez de contenu sur Internet. Il faut encore en faire plus.
Si tu devais en ressusciter un, est-ce qu'il y a un
Je vois pas, en fait. Non. Je crois que je suis trop jeune sur Internet.
Oh, c'est mignon.
Du coup, je vois pas... J'avais besoin de Google Reader, mais...
Caramel, peut-être.
Google Reader, ouais, je suis d'accord.
Ah, Google Reader, c'était bien.
Mais bon, il y a Feedly.
Très bien. Bon, ben voilà, on a ressuscité beaucoup de Google quand même. Hein. C'était,
On a tué et ressuscité Google.
C'est très bien. Bon, il nous survivra en tout cas. Allez, on attaque du coup la deuxième chronique avec toi, Mélissa.
Sujet numéro 2.
Les déconnexionnistes sont-ils complètement déconnectés de la réalité ?
Ha ! Alors, les déconnexionnistes.
Ouais. C'est un terme un peu compliqué quand même. Hein.
Bah, je pense qu'on comprend du coup. Hein,
oui, on comprend bien de quoi il s'agit.
Ouais.
Alors, j'ai donc moi tenté d'être déconnexionniste. À chaque fois, en fait, c'est la même chose dès que je pars en vacances. Donc là, Justin vous fait un petit bruit de vacances.
Ah.
Mettez-vous bien.
Tu reprendras bien ce petit coup d'œil à ton âge.
Tu passes la crème solaire d'âge.
Voilà, à chaque fois je me dis ah ça y est, je vais enfin pouvoir déconnecter.
Vacances à la ferme hein, quand même.
Mais on s'en fout d'As, putain, tu veux pas tout critiquer quand même. Donc comme mon boulot consiste, comme beaucoup d'entre vous ici, à être sur internet toute la journée, c'est un peu le fantasme que j'ai parfois, ne pas aller sur internet pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant un mois, un vœu de chasteté si vous voulez, face à la tentation maléfique des autoroutes de l'information. Donc là j'ai besoin d'un petit bruit de modem de la part de notre cher Daz.
C'est beatboxing de haut niveau.
Merci beaucoup. Donc la première fois en fait que j'ai tenté ça, c'était en 2012, donc il n'y a pas si longtemps. J'allais aux États-Unis et donc j'ai viré Twitter, Facebook de mon téléphone parce que je me rendais compte que en fait vraiment mon doigt allait vraiment sur Twitter et Facebook par défaut et je me suis dit wow, putain, ton cerveau a vraiment changé. Et donc j'ai tenu 2 jours en fait parce que quand on est à l'étranger. En fait, Internet, vous avez besoin de ça pour communiquer, pour garder les contacts des gens que vous rencontrez. Et la deuxième fois, en fait, c'est cette semaine, pardon, je suis partie au Portugal, toute seule. Et donc, j'avais réservé mon logement via Airbnb. Donc oui, j'aurais pu noter le numéro de ma logeuse sur du papier, par exemple, ou ne pas publier de photos sur Instagram, ou ne pas consulter mes mails et continuer à lire un livre. Oui, j'ai voulu me rappeler des adresses qu'on m'avait données sur Twitter, donc je suis allée sur ma boîte mail. Oui, j'aurais pu les imprimer, mais non, je ne l'ai pas fait. Ou le mail qu'on m'avait transféré avec plein d'adresses, oui, j'aurais encore pu le mettre dans une note sur mon téléphone sans être connectée par sur Internet, mais... À quoi bon, quoi?
Ouais, c'est chiant, finalement.
j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, alors je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc j'ai passé 1 heure à penser mon plan. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je vais me prendre la tête à ça? Enfin, je veux dire, je me suis juste dit, arrête, quoi. Donc j'ai plutôt contacté ma logeuse via la messagerie d'Airbnb, ça m'a pris 1 seconde. Immortaliser mes vacances sur Instagram sans trop en faire pour pas passer ma journée là-dessus. Et écumer plein d'adresses qu'on m'avait données en allant sur ma boîte mail. En fait, me déconnecter pour me déconnecter, ça m'aurait pris du temps. Du temps sur mes vacances que j'attendais depuis longtemps. Je pose cette rime pour Daz.
Elle est très belle.
Qui saura la juger.
Très riche.
Donc je ne suis pas une déconnexionniste. J'en suis enfin arrivée à cette conclusion. Je l'ai admis, j'ai assumé. Voilà, je suis Mélissa et je ne suis pas déconnexionniste.
Bravo Mélissa.
Bonjour Mélissa. Mais ça, en fait, ça semble être le fantasme de beaucoup de gens aujourd'hui.
Oui,
en 2015.
Ça revient souvent ça. Hein.
Moi, ça me fascine qu'en 2015, plein de gens ne veuillent faire ça. Et en fait, du coup, forcément, il y a des gens qui veulent faire de l'argent avec ça, avec ce fantasme fou. Et donc j'ai cherché en fait si je voulais vraiment le faire comment je pourrais donc en fait il y a le centre thermal de Vichy-Célestin
ouais.
qui propose une digital détox passons sur le vocabulaire bullshit hein, parce qu'on va détoxifier du doigt et donc là j'essaye de comprendre le programme donc le coût de ce break digital selon un article du Point est de 1500 euros sympa. Et donc là,
ça fait Charles Maud d'avion,
au-delà du fait qu'en plus l'article compare Internet à une addiction, genre comme le, enfin comme être accro au cannabis, c'est vrai que le cannabis est un super moyen de communication.
Donc, c'est remboursé par la sécu.
Merci le point.
Les mecs, ils ont réussi à comparer.
Ouais. Ah ouais, non mais il est super cet article.
L'Internet et de la weed, c'est beau,
c'est le point.
Tout,
hein,
tout, tout est la weed dans ce papier. Donc pour 1 500 € à Vichy, vous aurez donc le droit de déposer tous vos écrans au coffre de l'hôtel. Super. Prendre possession de votre chambre sans téléphone, ni ordinateur, ni connexion internet, bien sûr, uniquement des livres, des jeux de société et de la musique zen. Wouh! Trop cool. Et commence alors un programme bien-être de 4 jours et 4 nuits composé de 14 soins pour retrouver un équilibre psychique dans une vie bien réelle. Alors là, en fait, c'est pas du tout cool. Une vie bien réelle. Ce sont les mots.
On attaque le cœur du problème.
Voilà, ce sont les mots de la responsable de communication de Vichy là. Et de Vichy, ouais. Je vais pas troller sur Vichy.
Non, parce que là, tout le monde est en train de frémir là. Ils veulent pas sortir les blagues. On les sortira pas.
Voilà, en 2015, certaines personnes pensent que la vie réelle, c'est une vie sans internet, et c'est bien là tout le problème des déconnexionnistes. Bon, rappelons quand même que plein de gens qui sont sur Facebook pensent ne pas être connectés à Internet.
On en avait parlé.
On en avait parlé déjà dans une précédente émission. Mais le problème, c'est que c'est, en fait, Internet, on le dit à chaque émission de Studio 404, mais clairement, plein de gens ne nous écoutent pas. S'il vous plaît, les gens, écoutez-nous.
Surtout à Vichy.
C'est pas seulement un outil de communication ou un média, c'est une société. C'est en partie là, en fait, qu'on fait nos vies aujourd'hui. C'est là qu'on fait nos vies privées. Sylvain nous en parlera à cause du projet de loi sur le renseignement, parce qu'elles sont un peu mises en danger. Et en fait, il n'y a qu'à lire en fait, ce que le mec qui a fait la cure de désintox d'Internet, en fait, c'est un journaliste de The Verge qui avait arrêté Internet pendant un an. À la fin, il a fait un immense papier pour expliquer comment ça s'était passé. Vraiment, la rédaction lui avait dit « Fais ça, ton job, c'est pendant un an d'arrêter Internet. » Et voilà ce qu'il dit. « Mon plan était de quitter Internet et ainsi de trouver le vrai Paul. » Donc, il s'appelait Paul. « Entrer en contact avec le vrai monde, mais le vrai Paul et le vrai monde sont déjà liés inextricablement à Internet. Non pas que ma vie n'était pas différente sans Internet, simplement, ce n'était pas la vraie vie. » Le mec, il a passé un an sans Internet, il s'est dit « Bon, bah, c'est vraiment pas la vraie vie. » Retenons ces mots, quoi. Alors oui, on va pas être débile, pardon, mongolien pour Daz, à ne plus savoir rien faire sans téléphone comme le dit Fibre. Mais en fait, vouloir s'en défaire à tout prix, absolument, complètement, c'est juste débile. Enfin, c'est vraiment, c'est comme vouloir s'extraire de la société, ne plus parler avec. Enfin, pour moi, ça semble être la même chose, quoi. C'est genre, je vais être autiste.
Non, mais complètement déconnecté.
En 2015, c'est, je vais être autiste, je vais décider de pas aller sur Internet, de pas communiquer. Vous pouvez le faire un certain temps, mais franchement, je vois même plus pourquoi. Enfin, Internet, on y débat, on y travaille, on y prépare cette émission, on s'y divertit, on apprend, on joue nos vies sentimentales, on se masturbe, on perd du temps. Enfin, c'est la vie, quoi.
On se masturbe, on perd pas trop de temps. Bon, ça, c'est un autre débat.
Non, c'est on se masturbe, virgule.
Ah, d'accord.
On perd du temps.
Ah, ok.
La vie.
La virgule est importante.
Voilà. Le seul truc, c'est que c'est pas encore validé comme activité d'être sur Internet et de passer du temps sur Internet, même si on en passe pas trop. Et du coup, c'est un peu genre, ça continue ce truc de le gros Internet. Et en fait, personne sait dire ce que c'est Internet. Du coup, dès que t'es sur ton téléphone, t'es sur Internet, alors qu'en fait non. Enfin, et vouloir déconnecter avec ça, je comprends pas le fonctionnement, même si j'ai vraiment fantasmé là-dessus jusqu'à il y a encore 6 jours, quoi. Parce qu'en fait, quand je prends un livre.
Oui.
Quand je suis en vacances, je suis aussi déconnectée du monde qui m'entoure que si je suis sur mon téléphone, finalement.
Tout à fait.
Donc, en fait, maintenant, quand je pars en vacances, j'hésite plus à aller sur Google Maps. Je ne me dis pas que je suis débile. J'échange avec les gens que je rencontre sur Twitter, Facebook, Snapchat, enfin tout ce que je veux. Et donc, je me dis vraiment, si j'ai envie de regarder une série sur mon ordi, oui, je le fais. Enfin, je ne vais pas ne pas prendre mon ordinateur.
Légalement. Hein.
Voilà. Tout à fait légalement.
Tout est légal ici.
J'ai vraiment arrêté, en fait, de vouloir... vivre sans Internet, c'est pas une vie. Parce que je pense vraiment que donc les déconnexionnistes sont déconnectés, oui, mais de la réalité.
Ah, quelle belle chute. On peut applaudir Mélissa ? Quelle belle chute.
J'ai une petite question.
Daz, qui est très en forme aujourd'hui.
Oui, c'est dimanche.
c'est
cet article-là, donc c'était sur le point, enfin c'est le point le mag ou le point.fr ?
Le point, le site.
Donc les mecs, c'est sur un site internet qui parle d'un mec. Bon.
Oui.
C'est juste pour être sûr que c'était idiot.
Tu veux continuer le troll, vas-y.
Non, c'est bon.
Non, mais il y a quand même un fantasme parce que on s'en parle souvent entre nous en disant je pars en vacances, je vais couper de tout, doit-on disparaître ? C'est aussi un marronnier qu'on voit très souvent, genre effectivement faites des cures d'internet, des sortes de jeûnes ou de carême d'internet. Donc pour toi, Mélissa, d'une certaine manière, c'est un fantasme, mais en fait, ça n'a plus aucun sens.
Ça te complique la vie, quoi. Ouais. Quand tu te dis je vais déconnecter, c'est je veux partir en vacances, être tranquille. faut juste être un peu moins sur Internet et profiter de la vue de là où t'es, j'en sais rien, mais enfin, juste arrêter. Enfin, ouais. Non, mais je vois très bien la différence entre être passer ses vacances à mettre toutes les photos sur Instagram et à lire tes mails alors qu'en fait t'es pas au boulot. Enfin, tu vois, ouais. Là, oui, c'est con aussi d'être comme ça à ce moment-là. Mais maintenant, on sait aujourd'hui mesurer nos usages, quoi.
D'accord. Donc oui, tu peux partir en vacances, utiliser Internet sans être...
En fait, je comprends plus le fantasme parce que vraiment, moi, je me suis dit, quand j'ai essayé de le faire, je me suis dit, mais tu te compliques la vie, tu perds du temps. Vraiment.
Oui, donc en fait, c'est du pragmatisme pur et dur.
Ouais.
De votre côté, Fibre, Sylvain, est-ce que c'est déconnexionniste ? Est-ce que c'est...
Je les hais.
Sylvain, tout
à
simplement...
À mort les déconnexionnistes.
Tu hais les
qu'ils aillent se déconnecter la gueule et qu'ils nous laissent tranquilles. Non mais sérieux, mais quelle idée quoi ! Mais quelle idée de vivre au banc de la société, quelle idée de vouloir refuser quelque chose qui nous change la vie et qui nous permet de communiquer et qui nous permet de vivre... ensemble.
Tu parles de Google uniquement là ou
non de... je parle de la technologie d'Internet en général.
Okay, très bien. Voilà.
Tu penses que d'une certaine manière il se trompe de colère ou de mesure dans la colère en disant au lieu de comme disait Mélissa, on peut utiliser Internet tout le temps, ça veut dire qu'on est obligé d'être obsédé dessus surtout quand on doit couper un peu du reste de notre vie. Ça veut pas dire qu'il faut forcément s'imposer une vie d'asset.
Pour moi, c'est des lâches en fait.
Ah, clairement, sont des lâches.
C'est des lâches.
Les mots sont forts.
C'est des lâches. C'est des gens qui ne font pas l'effort d'essayer de comprendre quelque chose
ouais.
qui est peut-être trop compliqué ou ils ont peut-être loupé le train du numérique. Ils sont fracturés, tu vois, entre la différence entre les gens qui ont connu Internet dès le début et ceux qui ont dit oulala, ça marchera jamais.
Ouais.
Et pour moi, c'est des lâches qui font pas l'effort d'essayer de comprendre comment vit la société aujourd'hui.
D'accord, très bien.
Qui voit encore le truc comme une drogue, en fait.
Voilà.
Je veux dire,
et là, on peut
le
pas
mal,
dire que c'est le cas aussi.
Et comme Daz, je pense que ces gens ne méritent pas de survivre.
je suis pas complètement d'accord, moi.
Daz.
Non, en fait, je pense que, enfin, là, Internet a le mauvais rôle, comme le jeu vidéo a eu le mauvais rôle avant, et je pense simplement que, enfin, j'ai teasé le sujet de la chronique de Mélissa à des potes hier soir. Ça s'est presque terminé en baston.
C'est vrai.
Parce que je pensais justement que tout le monde allait être acquis à cette cause-là, de dire, ah, déconnexionniste, c'est de la connerie, etc. Et j'ai été très surpris, voire pris de court. Ils étaient complètement dans la vie du
déconnexionniste.
Ouais. Donc en je me suis dit, ok, tous mes potes sont de droite.
Genre
et personne
m'appelle. Genre vraiment hardcore le truc, genre.
Ouais,
Internet,
genre oui, non, mais Internet, attends, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, ben, il faut arrêter parce que sinon, tu passes ta vie dessus. Et je dis, mais ouais, enfin, genre des bouteilles d'alcool et vous
lâche ton smartphone, revient dans la vraie vie, quoi. Ils te
non mais voilà,
comme ça,
je leur ai dit mais justement ce point-là, j'ai dit mais c'est pas, enfin la vie, c'est Internet, la vie réelle, c'est aussi Internet, c'est pas un truc.
Oui, Internet fait partie de la vie réelle, c'est pas.
Il y a pas de cloison en fait. Ouais. Et ils m'ont dit mais bien sûr que si.
C'est les mecs de The Pirate Bay quand ils ont eu leur procès, vrai, ouais, où le juge leur disait quand vous êtes IRL, je sais ouais, plus quelle ah situation. Bah, et les mecs ont dit non mais nous on n'utilise pas IRL, on dit AFK, away from keyboard. Parce que Internet c'est la vraie vie.
Mais et finalement c'est pas si, enfin voilà, ces avis-là sont aussi partagés par des gens qui sont de notre génération, qui sont de des mêmes catégories socio-professionnelles, qui vivent à peu près aux mêmes endroits. Il y a des gens, je les connais, qui sont persuadés effectivement que les cures de désintox c'est super quoi, il faut le faire parce que Internet ça tue les gens. Bon bah ok.
Eh ben dis donc.
Ah ben je les ai virés. Là c'était chez moi donc je les ai virés.
Tu les as virés d'Internet ou pas?
Ouais, j'ai viré ma femme aussi, elle était
Fibre.
J'ai une théorie. Alors c'est une théorie, mais peut-être.
Tiens,
que...
c'est marrant, Fibre, ta théorie.
Mais peut-être que Sylvain va dire ah mais elle est connue cette théorie, c'est machin qui en parlait. Par rapport à Internet ou par rapport à tout ce qui est production culturelle, on a soit une attitude de producteur, soit une attitude de consommateur. Soit on peut être un peu des deux et un petit peu de tendance vers consommateur, un petit peu de tendance vers producteur. Et j'ai récemment énormément produit. Et
je produis énormément.
Et je n'ai plus de besoin de consulter. C'est-à-dire que, enfin, moi, ça fait deux semaines que je n'ai plus rien tweeté, tu vois. Et je suis incapable.
Sur Internet,
ça
en va fait.
Je suis incapable de vous dire.
T'as pas déconnecté.
Non, j'ai plus. Enfin,
ça me. Parce que là, ce que tu décris, c'est genre, t'es moins sur les réseaux, mais t'es pas plus sur Internet. Enfin, je veux dire,
oui,
tu passes ton temps à travailler
sur
Internet.
Oui, mais par exemple, pour prendre l'exemple du livre, quand je prends le train maintenant et que j'ai un trajet de 5 heures de train, je prends même pas de livre, rien. Je suis seul face à moi-même. Mais ouais. Et ben faites-le.
Je regarde dans la vitre, il regarde le paysage défilé.
Et ben faites-le, c'est.
C'est super flippant.
Mais je le fais encore. Enfin, tu vois, c'est.
Ouais, un mec qui regarde rien dans le TGV.
Pas du tout flippant.
Et ben ouais, je suis comme ça pendant 5 heures et. Essaye,
mais
tu verras.
Pourquoi t'as fait ça?
C'est une position intéressante.
Non, mais
tu t'y es pas forcé d'une certaine manière.
Ah non, mais pas du tout. D'accord. Mais l'absence de consommation est un mode de consommation aussi.
C'est et oh là là.
En fait, quand vous
c'est Michel de Certeau. C'est bon, tu l'as.
quand vous lisez, vous absorbez des choses de l'internet. En fait, si l'internet il était en papier, ben vous absorberez des choses en papier de l'internet. Donc effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de distinction entre la réalité et internet. Mais la question c'est plutôt notre mode de consommation qui est permanent. En permanence, je vois des gens, ils regardent des séries en permanence et ils disent des trucs hallucinants du style ah mais au bout du 15e épisode c'est bien, je vais pas me taper 15 heures, tu vois. Donc
toi tu parles plus de la manière dont internet apporte des occupations non-stop.
C'est une forme d'addiction à la consommation, voilà.
D'accord. Oui, c'est intéressant.
Et c'est intéressant. Enfin, moi aussi, j'aime beaucoup consommer. Et parfois, on peut aussi se consommer soi-même. Justement, par exemple, en ne consommant rien. Non, mais quand
ouais.
on
est. Oh là là là. C'est très beau. C'est alors, très toi beau. Aussi, tu vas poser ça là.
Mais en fait, tu déplores c'est le quoi. Fait qu'on n'ait plus le temps de ne rien faire.
C'est ce que j'ai mis dans ma chronique. Je l'ai enlevé parce que j'avais plus la place. Sinon. Ça fait partie des compétences qu'on a perdues, ne savoir rien faire.
Ah, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Donc, en fait, pour toi, le déconnexionnisme. Aurait une certaine pertinence, mais pas forcément liée à Internet. C'est lié au fait que la connexion, c'est forcément la consommation. D'accord.
Voilà. Surtout la consommation.
Ouais, je suis pas d'accord.
On est ce qu'on consomme. C'est-à-dire, quand tu manges des carottes, tu deviens une carotte. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ce que pensaient les aristotéliciens, se posaient la question. Mais en tout cas, Internet, si tu consommes beaucoup d'une certaine chose, bah, tu deviens certaine chose parce que ce sont des idées, elles t'influencent.
D'accord.
Voilà. Et c'est bien aussi de pouvoir se construire soi-même en refusant
Oui, mais du coup, t'es pas dans l'absolu de je déconnecte complètement. Enfin, je veux dire. On a tous appris le sens de la mesure.
Et je crois qu'il y a un consensus, et même parmi le public, que c'est une attitude qui n'est pas, enfin qui est pas soumise, enfin qui est pas suite d'une réflexion approfondie.
Après, voilà. C'est une posture philosophique, comme Diogène, de se couper du monde, de la consommation, de vivre dans un tonneau,
France
nu,
Culture,
devenir clochard.
Non, mais c'est ça, bien sûr. Ouais.
Enfin, je sais pas, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là, parce que ça y est, j'ai la fibre optique et j'étais joyeux et je télécharge rien, en fait.
D'accord.
Je télécharge rien, donc t'as accès à Internet, t'as accès à tout le contenu que tu veux, mais finalement, j'ai toujours pas vu Game of Thrones, par exemple, j'ai toujours pas vu Daredevil. Voilà, parce que j'ai pas envie de le voir maintenant et que je me. Enfin, tu vois, ce côté, puisque ça sort, il faut absolument que je le consomme, etc. Je suis pas sûr que ça soit réellement une norme.
Tu consommes autre chose.
Quoi.
Du jeu vidéo
Elite.
En ligne.
Oui, c'est vrai qu'il y a Elite.
Il n'y a pas 72 heures dans une journée, malheureusement.
Si, on peut toujours caler un truc, mais non, mais voilà. Enfin, je pense que cette compulsion, parce que c'est vraiment de la compulsion, ce que toi tu décris, c'est vraiment il faut absolument binge watcher House of Cards, il faut absolument attendre le 18e épisode. Et je partage tout à fait ce point de vue-là. Moi, si un truc me plaît pas au bout du deuxième, je pousse pas. C'est pour ça que je vous le dis.
Mais
si,
même pas au bout du deuxième.
Oh là là.
Breaking Bad, c'est nul, voilà.
T'as pas vu Game of Thrones, t'as pas Breaking Bad. Qu'est-ce que tu fous là?
Je sais pas, je me casse.
Très bien.
Donc non, je partage pas, voilà.
Est-ce que dans le public, alors mademoiselle là-bas, vous avez une réaction par rapport à ce débat sur les déconnexionnistes et le petit twist que Fibre a apporté ensuite? Bonjour.
Bonjour. Donc oui, moi je suis anti, non. Je suis pas du tout pour la détox d'Internet. Effectivement, je trouve que ça n'a aucun sens, tout comme dire qu'il y a la vraie vie d'un côté et Internet de l'autre. Très bien, mais je me pose une question, est-ce que ça serait pas une question de curseur à placer quelque part?
Oui, tout à fait.
Parce que on a tous cet exemple, on s'est tous moqué de ces personnes qui le 31 décembre, après que tout le monde se soit fait la bise à minuit 2, sont scotchés à leur smartphone, en train d'envoyer des photos, en train de tweeter, et donc sont dans la vraie vie, mais
pas avec les gens.
Mais pas avec les gens avec qui ils sont. Dans le salon à ce moment-là, physiquement.
Donc, pour vous, ce serait une histoire de curseur à placer. Enfin, Mélissa en parlait d'une certaine manière dans sa chronique, c'est qu'il y a une sorte de mesure à créer, une sorte d'équilibre dans sa.
Voilà, et Mélissa, tu disais que tout le monde a acquis cette mesure aujourd'hui, bah, j'en suis pas persuadée.
Ouais, j'en suis pas sûr non plus.
Moi non plus, mais là, pour le coup, là, aujourd'hui, c'est Internet, mais avant, c'était le téléphone. C'est-à-dire qu'à minuit, on envoie des textos à tout le monde.
Ouais.
Du coup, je pense que c'est pas seulement lié à Internet. Enfin, c'est une question de. Et en plus, tu communiques, mine de rien, avec des gens autour de toi. Donc après, oui, est-ce que il aurait fallu faire durer ça 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, attendre le lendemain, j'en sais rien. C'est vrai que c'est. Oui, tout est une question de.
Est-ce qu'il faut. Du coup, il n'y a pas de.
Quel temps on se donne, quoi.
Du coup, on va se retrouver avec une position un peu de normand, ni oui ni non, mais est-ce que du coup, il y a une sorte de. Comme dit mademoiselle, une sorte de mesure à adopter en disant, voilà, il faut se donner, je sais pas, des horaires, une quantité.
Mais au bout des années, on a arrêté, quoi. Enfin, au début, moi, j'étais vraiment beaucoup sur Twitter. Bah, maintenant, j'y suis beaucoup moins. Enfin, ça passe, quoi. Y a l'effet de nouveauté passe aussi.
Oui, ça aussi à prendre en compte.
C'est comme un jouet, quoi. Tu joues beaucoup au début, puis après, ça.
Après, t'as appris, tu connais les règles, et donc voilà.
En fait, Daz.
Non, mais moi, je.
Elle voulait réagir.
Ah oui.
Oui. Je me disais, est-ce que la vraie question, c'est pas à partir de quand c'est trop ?
Alors, à partir de quand c'est trop ?
C'est impossible de mesurer un truc comme ça.
C'est très personnel. Mais est-ce que du coup, alors,
si, au-delà de ça. Il y a une réelle limite qui est posée par la science. C'est le début de la pathologie. C'est à partir du moment où il y a de la souffrance, soit intérieure, soit dans ton entourage, c'est la limite.
D'accord. Il y a des entourages qui souffrent très très vite, hein, quand même.
Oui, mais
justement.
Tu vas encore jouer à Elite ? Ça va, 30 secondes, j'ai pas lancé le jeu.
Non, mais c'est ça, dans les addictions ou les maladies psychiques en permanence. Enfin, voilà,
donc toi, tu t'en réfères à quelque chose qui est déjà une sorte de norme qui est déjà posée, qui est la pathologie.
Voilà.
Au moment où tu atteins la pathologie, c'est ta tirette. Tu mettrais où ton curseur, Sylvain ? Tu mettrais très haut, beaucoup plus tard ?
Cette réaction me fait penser en fait au mythe de si tu t'amuses vraiment dans une soirée,
t'as pas besoin.
Alors t'as pas besoin de Snapchatter, d'Instagrammer, etc. Ouais. Ça, je trouve ça complètement con en fait.
Ah
c'est
ouais.
complètement faux.
Ouais.
Si t'as pas le temps d'Instagrammer, de tweeter, de Snapchatter ta soirée, c'est que t'es trop bourré pour le faire en fait. c'est simple, le curseur il est là quoi. C'est que non, tu peux t'amuser et partager à ta communauté ou partager à tes amis sur Snapchat en message privé la soirée où t'es et l'endroit où t'es. Enfin,
d'accord. Tu mettrais le curseur plutôt loin en disant je dois pas non plus essayer de
checker
constamment
au même endroit que Fim, c'est-à-dire il faut pas que ça devienne une pathologie, une dépendance.
D'accord. Mais alors moi, Fim, tu le mettrais assez loin.
Je note un truc quand même que je trouve assez incroyable, c'est que le soir, en soirée, il vous reste encore assez de batterie pour faire n'importe quoi.
Ah mais non, là, c'est un autre problème.
Ah,
le mien est mort depuis belle lurette en fait, donc j'ai plus ce problème-là. Heureusement, tant que les téléphones n'auront pas une autonomie illimitée, finalement. Ça nous permettra de temps en temps de discuter avec les gens.
Donc toi, c'est bon, on se marre, j'ai jamais de batterie.
Pour toi, la fin de la batterie est une bulle de respiration. Quoi.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut surtout pas
mettre plus d'autonomie. T'es un peu déconnexionniste, en fait.
Oui, mais par...
quand il oublie,
par déconnexion, ouais, c'est pas ma faute à moi, en fait.
Ouais, mais du coup, tu le vis bien, quoi. Tu te dis, ah, c'est bien.
Ouais, c'est surtout, je dis, oh non, je pourrais pas prendre ça en photo et dire aux gens que je m'amuse.
Mais tu le fais pas tellement.
T'es un déconnexionniste passif.
J'ai jamais de batterie.
Oui. C'est ça.
Sur la question
il faut ménager sa batterie comme on ménage son addiction.
Sa monture.
Wow.
Pour mettre un coup de vis sur la limite comportementale, je ferai une relation avec la sexualité. C'est-à-dire oui. qu'il y a.
Tout simplement.
Il y a 50 ans, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, on ne pouvait pas être homosexuel, par exemple. On les mettait en prison. Et aujourd'hui, la norme de la société a tendance à dire la sexualité, mais faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes bien dans votre peau et tant que vous ne faites pas de mal avec votre entourage, il me semble que pour tout comportement, cette règle s'applique, et notamment le comportement au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies. Et vous verrez que dans 50 ans, on dirait, mais c'est incroyable, imaginez-vous qu'au nouvel an, les gens, ils se disent culpabilisés entre eux d'envoyer des SMS aux autres, tu vois.
Donc, des déconnexionnistes sont des homophobes ? Si je fais un énorme...
C'est ça que
je
veux dire, le gros raccourci.
Un gros raccourci, hein.
Mario Kart.
Oui.
Un raccourci de même Mario Kart.
Il y a un phénomène d'intolérance.
Oui, ouais, tout à fait.
Et la tolérance, c'est toujours mieux que l'intolérance. Voilà.
Oh, bravo, moi j'applaudis ça. Toi aussi, tu poses ça là.
Super Charlie.
Est-ce qu'il y a une dernière réaction de quelqu'un dans le public, monsieur qui n'a pas encore parlé. Hop, pour finir sur ce débat sur les déconnexionnistes sont-ils des homophobes avec un problème de
pas
taille
tous.
De batterie, un complexe de taille de batterie.
Pas tous.
pas tous alors.
J'ai une petite théorie sur les déconnexionnistes. Moi,
oui.
Je pense qu'en fait, c'est juste la face visible de l'iceberg.
Ouais.
Et en gros, ils rejettent beaucoup plus de choses que juste Internet.
D'accord.
Quand on les écoute un petit peu, ils voudraient arrêter de prendre le métro, faire plus de vélo, élever des chèvres dans le Larzac,
manger
le
cru,
sens de la vraie
ça,
vie.
Ouais.
Ça, c'est des hipsters.
on en fréquente beaucoup ici. Et je me dis, tiens, est-ce que pour eux, Internet, c'est pas le truc qui s'immisce le plus rapidement dans leur vie privée et la chose qu'ils voient le plus? Donc, c'est aussi la chose qu'ils détestent le plus.
D'accord. Donc, en fait, voilà. Pour vous, la théorie qui est intéressante, c'est que les déconnexionnistes sont contre beaucoup de choses ou voudraient arrêter beaucoup de choses. Internet étant la tête de gondole ou le numéro un dans leur liste noire, d'une certaine manière. Sylvain, je te vois.
Parce que c'est tellement présent que c'est facile, en fait.
D'accord.
C'est plus facile de mettre son téléphone dans un tiroir que d'arrêter de bouffer de la viande, en fait.
Oh là là.
Sur court terme. Mais après, les mecs se rendent compte que c'est plus facile d'être végétarien que d'être déconnecté d'Internet.
Ils deviennent végétariens.
Vous pensez que les déconnexionnistes sont un peu des gens qui veulent refuser beaucoup de choses de leur époque, d'une certaine manière ? Et pas que Internet, en fait ?
Clairement, c'est une posture.
Ce sont des froussards.
Un peu extrême.
Oui, ouais, non, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est des lâches, des froussards. C'est,
des gens de droite.
C'est, non, mais c'est des gens qui ont peur des choses qui ne comprennent pas et des choses qui arrivent trop vite.
Des gens
de
droite.
Et qui se sentent submergés par quelque chose de technique, d'un peu compliqué, de la technologie. Quand la roue a été inventée au 3e siècle, comme tu disais, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui étaient là. Oulala, non.
Ça va trop vite
pour moi.
Bon, très bien. Bah, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que les déconnexionnistes auront à dire là-dessus. Ah, et alors, une dernière question. Alors, allez. Allez, mademoiselle, on va déborder, mais bon, hein, si une 404 ne débordait pas.
Je suis désolée, je tiens à intervenir parce que.
Non, mais ne soyez pas désolée.
Je suis une déconnexionniste.
Ah, ben voilà, c'est très intéressant. Ah.
Je suis peut-être la seule dans cette salle.
Dressez le bûcher.
Voilà, non, mais justement, très intéressant.
Vous allez me jeter des pierres, peut-être.
Mais on va te laisser parler d'abord, en fait. Après, on te lapidera.
J'aurais vraiment des tonnes de choses à répondre à ce débat parce que, à chaque fois, je pensais, ouais, je pourrais répondre ça, mais bon, je vais essayer de faire court. Je trouve que vous êtes dur.
Ah, c'est pas une émission de tendre ici, ça c'est sûr. Ouais, mais sûr. Effectivement,
mais c'est intéressant de, oui. aussi. Mais donc, enfin, je suis pas dans un. Enfin, la connexion c'est le cœur de mon métier. C'est ce que je fais tous les jours au boulot. Je suis community manager.
D'accord.
Donc, je suis tout le temps. Enfin, je suis hyper connectée.
Dans la journée, vous êtes vraiment dedans complètement.
Voilà. Okay. Donc, je suis pas pour la déconnexion totale.
Sinon, t'aurais plus de job en fait.
Déjà, sinon j'irais élever.
Je vais envoyer ce petit statut par la poste. J'espère qu'il y aura beaucoup de retours.
Mais justement, le fait d'être autant connecté au quotidien, il y a des moments où j'ai besoin de plus toucher à Internet, quoi, parce
D'accord.
que c'est pas, je le ressens pas comme une addiction. Je peux m'en passer quand je décide de m'en passer, mais. C'est pas de la lâcheté, c'est pas le rejet du monde réel, puisque oui, Internet, bien sûr que c'est le monde réel. Enfin, sinon, je sais pas pourquoi je ferais ce boulot.
Ouais.
Mais il y a une différence. Enfin, c'est le monde réel, mais c'est pas le monde matériel qui nous. Enfin, c'est pas le monde matériel qui nous entoure. C'est pas le monde. C'est pas notre entourage immédiat, Internet. Et moi, je suis comme fibre. Des fois, quand je suis dans le train, bah, pendant 2 heures, je vais pas regarder. Enfin, je vais peut-être pas regarder dans le vide, je vais plutôt regarder le paysage. Ouais.
Mais ça fait du bien, d'une certaine
manière. Et écouter de la musique, mais voilà. Ouais, juste...
C'est encore différent. Il regarde à l'intérieur de lui.
Il s'autoproduit.
Et pourquoi pas, c'est une forme de méditation ouais. aussi.
Mais est-ce que d'une certaine manière, pour vous, du coup, la déconnexion, c'est pas aussi c'est une sorte de parallèle avec moi quand le boulot est fini.
Mais c'est, coup, voilà, c'est pas le
déconnexionnisme au sens où je suis contre Internet, c'est plus genre le boulot me prend beaucoup de temps et une fois que je sors du boulot, j'ai envie de couper du boulot et Internet est lié au boulot.
Ouais, il y a ça, mais bon, le soir, dès que je sors du boulot, je reste connecté quand même toute la soirée.
Bah, vous n'êtes pas une déconnexionniste.
Mais quand je pars en vacances, parce que c'était le propos de,
oui, tout à fait, ouais.
c'était le propos de départ. Quand je pars en vacances et je me dis, je vais faire des vraies vacances. Ouais, là je mets mon portable en mode avion. Je l'ai fait la semaine dernière. Pendant 3 jours, j'avais mon portable en mode avion.
Alors j'ai une question là-dessus. C'est là. Est-ce que au bout de ces 3 jours, quand t'es revenu en fait, t'as dû rattraper tout ce que t'avais loupé pendant les 3 jours où t'étais pas connecté, ou t'as repris le truc au moment où t'es arrivé et tu t'es pas intéressé à ce qui avait pu se passer pendant que t'étais déconnecté. Si jamais tu as dû rattraper le temps perdu, alors te déconnecte pas, ça sert à rien.
Oui.
Non mais c'est vrai.
Ouais,
non,
c'est...
Ou est-ce qu'effectivement tu as décidé que ces 3 jours, t'es 3 jours sans.
C'est 3 jours.
C'est pas,
voilà, c'est
pas 3 jours de décalage d'internet. Mais
là, c'est le Michel Simès du numérique. Tu sais. Ne vous déconnectez pas.
Bon, après 3 jours, c'est pas énorme non plus. Hein.
Oui.
Pour le coup, j'ai peut-être rattrapé l'actualité, enfin les choses les plus importantes de l'actualité. Après, non, j'ai pas passé une journée après les 3 jours à récupérer tout ce que j'avais raté, quoi.
D'accord.
Même au contraire, ça m'a ennuyé en fait au début de me reconnecter parce que on reçoit plein de messages d'un coup et puis il y a 10 000 trucs à regarder. Et j'ai fait progressivement en fait pour réintroduire Internet dans la vie, quoi.
Et donc juste pour finir, parce qu'effectivement comme tu dis, il y a eu beaucoup de raccourcis parce qu'on aime bien des fois parfois en faire dans l'émission, mais c'est vraiment
très vite
rare,
fait
tout vraiment. Il y a eu beaucoup de raccourcis et beaucoup de moqueries, mais est-ce que toi tu as eu des gens autour de toi qui partagent cette philosophie ou qui vont plus loin en disant moi j'ai décidé de plus avoir de smartphone ou de dire Internet c'est que pour les besoins spécifiques, mais c'est pas
mais c'était pas le même profil aussi, enfin là c'est quelqu'un quand même qui, enfin t'es quelqu'un qui travaille directement, qui gagne sa vie grâce à Internet. Je pense que les déconnexionnistes dont on parle, c'est des gens qui ne comprennent pas Internet. Elle le comprend, Internet. C'est comme un type qui bosse au McDo, il va dire ah non mais moi les hamburgers je peux plus en manger. Bah ouais, c'est normal, tu fais ça tous les jours, t'es blasé, c'est logique en fait. Mais pour moi c'est un profil totalement différent. Ouais. Donc ceux qu'on insultait en fait n'en fait pas du tout partie. Et ça c'est
tu
quand même
bienvenue ici.
Merci, je vous rassurerai.
Voilà, on va tous se donner la main en tout cas. Merci beaucoup, mademoiselle. Fin de ce débat et on attaque du coup une deuxième FAQ.
FAQ.
Oh, public, réveille-toi. Enfin non, vous étiez réveillé, vous avez beaucoup rigolé sur ce dernier débat et beaucoup réagi. Est-ce que l'un d'entre vous a une question à poser ou une petite obsession à partager ou quelque chose qui l'embête ou qui l'enthousiasme? Ah, monsieur. Alors,
Ça va faire le lien avec la chronique qu'on vient de faire là. C'était en fait, est-ce que c'est pas plutôt un amalgame entre déconnexion sociale et numérique? Parce qu'au final, c'est plutôt le ras-le-bol, quoi. C'est le ras-le-bol d'avoir trop de gens, de discuter, etc. Et on le vit tous ce moment-là.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Là où, que ce soit au boulot, au quotidien, avec les gens, hein, quand on se met à un binge-watching pour se couper complètement du monde. Et du coup, ça serait plutôt, ce déconnexionnisme, ce serait plutôt se couper des gens plus que se couper du numérique.
D'accord. Alors déjà, le débat a repris ses droits, il a bien débordé. Il est sorti par la porte, il est rentré par la porte.
Désolé pour ça, mais il n'y avait personne, donc je me suis permis.
Donc en fait, sur ton point, si j'essaie de résumer, le déconnexionnisme, ce n'est pas spécifiquement par rapport à Internet?
Bah ouais, ce serait un amalgame en fait entre déconnexion sociale et déconnexion numérique. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à gérer, comme on le disait, le numérique suffisamment pour se déconnecter socialement. C'est trop intrusif pour eux. Et du coup, ils mettent tout dans le même sac, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, Mélissa. Parce que moi quand je suis partie là en plus en vacances seule, c'était un peu, je me disais ah, donc je vais être seule, je vais parler à personne, et même sur internet, dans le fantasme, c'était ça.
D'accord. Ouais, donc il y avait une sorte de d'isolation.
J'ai arrêté de communiquer, quoi, de dire ce que je fais,
Philippe tout à l'heure parlait de consommation de séries, de consommation de sites internet, de consommation de contenus en fait qui ne sont pas des contenus sociaux. Du coup, ça aussi, ça fait partie de des choses qui nous rendent addictifs et qui nous obligent à nous déconnecter. Donc je sais pas si c'est vraiment si c'est peut-être un amalgame entre social et numérique, mais
plus que jamais le binge watching mérite son
nom. On rappelle, binge watching, c'est de regarder en série des séries.
Ouais, okay. Mérite son nom, son étymologie, c'est binge, c'est en prendre beaucoup trop,
peut-être gavage,
voilà, comme pour se saouler, quoi, pour perdre connaissance. Et je vois il y a une vraie perte de qualité dans les contenus qu'on regarde. Je ne consomme absolument pas de séries, mais je vous observe regarder des séries
sur les spoilers.
Oui, parce qu'on a refusé ma chronique sur les spoilers, voilà. Et je trouve vraiment
le piratage,
non, mais je trouve vraiment, quand vous prenez une série comme Homeland que vous avez regardé, vous avez apprécié, quand vous regardez le scénario dans sa globalité,
ça n'a plus rien à voir avec le débat, hein.
Donc, il est insupportable.
Le mec a complètement
arrêté. Mais monsieur a détourné la FAQ pour revenir au débat, et toi t'as détourné la FAQ pour revenir à ton débat, toi.
C'est détournement d'avion.
C'était parfait. On attaque la troisième chronique immédiatement, ce sera Daz.
Sujet numéro 3.
Pourriez-vous encore acheter à l'aveuglette sur internet?
Encore une super titraille.
Eh oui. C'est Daz, Daz des bons conseils qui revient. Alors Daz, on parle shopping, on parle conso.
Exactement.
Coucou les filles.
On parle tendance du printemps.
C'est la chronique trendy, voilà, il fait beau, il est temps de renouveler sa garde-robe. Et c'est pour ça que je ne vais pas du tout vous parler de ça en fait. Parce que pas plus tard que cette semaine, Sylvain m'a fait suivre des messages des gens qu'il contacte sur Gtalk. Donc vous savez que Sylvain a des gens qui lui demandent d'utiliser son smartphone pour eux. Et Sylvain fait aussi du conseil marketing toute la journée en fait. Donc le premier de ses contacts lui demandait son avis entre un Samsung Galaxy S6 et un iPhone 6. En confondant stockage et RAM au passage, mais bon, pas non plus être pointu tout le temps. Le second contact lui demandait son avis sur l'Asus Zenfone 2Z2500 CL. En reconnaissant avoir galéré à écrire la ref correcte LOL, et qu'Asus, ça fait chier, mais il a de bonnes specs. Alors pour moi, ce type d'échange, en fait, c'est juste après Jean-Marc Morandini et le cancer, le plus gros cancer de ce siècle. Parce qu'on vit en fait à une époque où un produit peut nous faire chier, mais comme il a de bonnes specs, on envisage de l'acheter.
Et là, en fait, ce qui me surprend, c'est que je suis pas en train de parler d'un disjoncteur, je suis pas en train de parler d'une fosse septique, mais d'un téléphone, d'un smartphone. Donc un appareil un peu catalogué plaisir quand même, qu'on va dégainer 150 fois par jour. Et à mon sens, à part le CEO de BlackBerry ou celui d'Arcos, personne, en tout cas personne de sain d'esprit, est prêt en fait à s'infliger le fait, le supplice même, d'utiliser un produit qui ne l'attire pas, juste parce qu'il a de bonnes specs. Et comme je parlais de specs, en fait, je vais enlever Arcos. Et BlackBerry aussi, finalement. Mais donc, cette question, est-ce que vous êtes prêt, serait prêt à utiliser un truc qu'il considère comme pourri, mais bien équipé, normalement, les gens vont dire, nous, parce qu'il y a un diktat de specs, justement, d'avis et de recommandations sur Internet. Alors, je veux que vous le sachiez, toutes les 34 secondes, il y a un designer vegan qui se pend à son iMac avec une écharpe en lin éco-responsable parce que son produit joli et bien fini est déclassé par un truc mal pensé, mais avec un meilleur CPU ou plus de RAM. 64 gigas de RAM pour les potes de Sylvain, c'est quand même mal. Ils sont déjà en 2032, les mecs. Posé sur le bureau de ce designer vegan, il y aura un mot tapé en Helvetica et imprimé sur du Bristol rose pâle 320 grammes en fleurs de coton. C'est trop dur, je ne peux pas lutter, les gens ne méritent pas le beau. Avec une majuscule. Nous, au Studio 404, on aime beaucoup les designers vegan et ça nous attristerait un petit peu que leur travail fabuleux passe après des trucs que tout le monde se force à lire sans forcément les comprendre, donc les spécifications en l'occurrence. Parce que moins de designers vegan, ça veut dire moins de fixies. Et moins de fixies, ça veut dire quand même moins de gens idiots dans les rues. Et ça, il faut surtout refuser ça.
T'as tes petites obsessions, Daz, je
trouve. Oui, j'adore les fixies. Alors, les gars du Labo 404 ont mené une étude dont les résultats vont vous surprendre et changer votre rapport au monde. En moyenne, 75,5% de la surface d'une page produit est occupée par des considérations techniques, des avis et des suggestions diverses. 102% de ces éléments, ça c'est un vrai chiffre, sont aussi utiles que de savoir calculer une intégrale pour acheter sa baguette de pain. Fibre le fait, mais bon, c'est fibre.
C'est Pythagore.
Oh, c'est pareil, il est dans le même délire. 354%, encore un chiffre vérifié, de ces éléments seront oubliés dans les 3 mois qui suivent l'achat. Maintenant, je vous propose un truc, c'est imaginer un site de vente en ligne qui ne propose absolument aucun élément autre que le produit, son prix, et on va dire des classifications. Pour remplacer la notion de stockage au giga, par exemple, on va dire, on va faire une classification entre petit stockage, moyen stockage et gros stockage, par exemple.
Comme les vêtements, en fait.
Voilà, un truc dans ce mode-là. Donc, rien que ça, des photos en super haute qualité, pour vraiment kiffer le produit.
Tu veux dire iPhone 6 Plus, pour dire qu'il a
plus
grand
écran? Attends, j'ai pas terminé. Mais on va y revenir. Donc, pas de petites étoiles pour afficher la note octroyée par le site. Pas de carrousel, nos suggestions qui permettent aux vendeurs, sous couvert du partage de bons plans, d'écouler ses fins de stock. Pas d'onglet fiche technique qui permettent de vérifier si la RAM DDR3 est bien à 1,35 volts ou pas. J'ai pris ce chiffre, c'est vrai, hein, c'est écrit.
Ça, c'est un vrai chiffre.
Ouais, c'est un vrai chiffre. J'étais en train de me taper la tête dans l'écran. Pas d'avis dont tout le monde sait qu'ils sont écrits en fait par des robots adolescents. On appelle ça des Chinois dans la banlieue de Shenzhen. Donc juste vous, le produit et votre sensibilité. Pour moi, de mon point de vue, les bénéfices seraient multiples. Il y aurait déjà moins de pression. Donc on se mettrait moins de pression. Si jamais le Asus, et là aussi c'est une vraie référence, B551LA-CN032G, c'est un ordinateur portable, a un CPU qui tourne à 0,3 GHz de moins que le Asus B551LA-CN033G, qui est évidemment totalement différent. On aurait moins d'état d'âme à choisir le modèle rouge vif parce qu'il était plus beau. Et surtout, on aurait zéro regard des approbateurs qui remet en question notre âme quand en rentrant à la maison avec un PC rouge vif sous le bras. On nous demande qu'est-ce que c'est que ce truc rouge vif. On dit mais non, mais il était beau. Voilà. Les molettes des souris seraient beaucoup moins usées, puisqu'il n'y aurait pas besoin de scroller pendant 16 km pour réussir à voir l'intégralité d'une page. Il y aurait moins de déchets électroniques, puisque du coup, on jetterait moins sa souris.
Non, mais tu vas loin dans la société de demain.
C'est très important. Il y aurait moins de corruption aussi, puisque les marques arrêteraient du coup de payer des coûts et des vacances au soleil aux propriétaires des sites en échange d'un placement un petit peu avantageux et d'une reco et de choses un peu bidonnées. Donc tout ça, ça permettrait finalement d'améliorer globalement l'humanité, en plus de l'environnement, et éventuellement de résoudre le problème de la guerre au Proche-Orient. Si un tel site existait, c'est la question que je vous pose, est-ce que vous seriez prêt à acheter à l'instinct, sans aucun frein en fait, à l'achat d'impulsion. Donc un truc vous plaît, et là, vous ne pouvez pas chercher de comparo, machin, etc., parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous pourriez faire confiance finalement à vous-même, Et sans vous remettre en fait, sans vous en remettre à l'avis de quelqu'un qui est plus calé que vous, soi-disant, un parasite, moi j'appelle ça.
Parlez-moi.
Est-ce que vous seriez prêt, voilà, à vous faire confiance en fait quand vous achetez quelque chose? C'est ça la question que je poserai au public. Alors. Je note aussi que on a ici donc le président directeur général du journal du Geek qui serait très embêté du coup puisqu'il pourrait plus faire d'OP. Il n'y aurait plus d'argent, voilà. Donc, est-ce que vous voulez que le journal du Geek arrête de fonctionner aussi? C'est la question que je pose.
Super sympa.
Vous seriez-vous, en fait, d'une certaine manière?
Voilà. Mettez-moi, vous seriez-vous.
La question de base. Vous seriez-vous.
Peut-on encore acheter, du coup, sans reco, sans test, sans reco d'un testeur professionnel, sans reco de ses amis, sans étoiles, sans specs, sans rien comparer? Peut-on encore acheter de manière spontanée, compulsive et fraîche, d'une certaine manière, aujourd'hui?
Non, je tiens à rajouter un truc, oui. C'est que, par exemple, on prend la RAM, enfin bon, bref, le stockage. 64 gigas, donc les gens ont l'habitude de comparer ce truc-là, de dire ah, 64 gigas, mais c'est moins bien que 128, machin, etc. Mais en fait, concrètement, est-ce qu'on sait réellement ce qu'on peut faire avec 128 gigas d'espace?
Pas grand-chose.
On sait pas, en fait. Oui. Est-ce que tu sais, sur 128 gigas d'espace 10, est-ce que tu sais combien de chansons tu peux mettre dessus? Est-ce que tu sais combien de photos t'as le droit de mettre?
Tu penses que 128 gigas, ça te rassure plus qu'autre chose?
Ouais, je pense qu'on compare en fait des trucs qui sont complètement abstraits. Les trois quarts des gens, un gigaoctet, ils savent pas ce que c'est.
Ça existe, ce genre de spec quand t'achètes
sur le site d'Apple, oui, tout à fait. Oui.
Non, mais quand t'achètes un produit où ils te disent, il y a 128 gigas
de RAM, voilà,
tu l'as dit à moi aussi tout à l'heure.
De stockage.
Pour me moquer de lui.
Ils te disent, on peut mettre tant de MP3 dedans, on peut stocker tant de.
Oui, mais ça passe après. C'est-à-dire que je mets quiconque au défi de me dire qu'effectivement, son travail de tous les jours passera mieux avec un Core i9-950 qui a dansé à 3,06 GHz, mais overclockable à 3,8 GHz, qu'avec un Core i5-750 qui a dansé à 2,8 GHz.
C'est pas parce que ça existe sur les sites que les gens regardent forcément.
Mais bien sûr que si. Moi, j'ai des gens qui me posent des... t'as vu tes potes?
Mon pote en question a acheté du coup un Motorola Moto G.
Parce que tu lui as dit parce que t'es payé par Motorola, mais ça c'est un autre débat encore.
C'est pas vrai, mais j'aime beaucoup cette marque. Et il m'a dit aujourd'hui, il m'a dit franchement, un seul giga de RAM, je les sens quoi.
Alors qu'il confondait avec le stockage.
Non, incroyable. C'est l'autre.
Ah, d'accord, ok.
Fibre.
J'ai juste une question. T'avais pas parlé de la paix au Moyen-Orient dans ta chronique originelle?
Si,
parce que justement, je me suis renseigné sur le sujet.
Alors, on va vraiment parler de la paix au Moyen-Orient
et du benchmark
et des spoilers.
J'ai benchmarké la Syrie. Mais
non, le 17 avril 2015, donc c'est il y a 3 jours, les députés européens, à l'exception du député allemand, ont écrit au commissaire européen aux affaires étrangères en disant il est important de marquer sur les étiquettes les produits qui sont faits dans Palestine colonisée par l'Israël. Pour améliorer le processus de paix. Et effectivement, en fait, là, tu parles d'étiquetage, tu vois.
Oui, là, on est dans une sorte de spec aussi.
Et donc, hein. Effectivement, quand Daz dit « Ah, ça va régler le problème au Moyen-Orient », ben oui, ça va régler le problème au Moyen-Orient.
Voilà, c'était la conclusion.
On a trouvé la solution.
Voilà, d'une part. Non, sinon, j'ai encore une théorie liée au sexe. Bon, c'est le printemps. C'est que ma théorie, c'est que quand tu veux t'acheter un truc, un PC ou un Mac, tu sais de base ce que tu veux. Tu sais que tu le veux, tu vois. Et tout le reste, c'est une sorte de petite danse du ventre. Tu dis, oh, je vais acheter le meilleur truc, ça va être trop bien, ça va être trop bien.
C'est quoi le parallèle avec le sexe?
Et c'est paranuptial.
Parce que c'est le benchmark, c'est l'érotisme de l'acte d'achat. C'est-à-dire que tu n'as pas encore l'objet. Tout ce qui va arriver au moment, ça va augmenter ton plaisir, tu vois, moment où tu auras l'objet.
Donc les specs, c'est les préliminaires d'une
certaine
manière.
Ouais, c'est ça,
d'accord.
Oh là là, il va avoir des gigas, oh là là, il va avoir... tu t'en fous, en fait, c'est une petite danse de l'amour, tu vois.
Mais je suis pas en train de dire qu'il faut enlever le site, je te dis que sur le site, t'enlèves la partie spec technique.
Mais
c'est plus de place pour les photos.
C'est super triste, toi, tu proposes...
Tout ce que je retiens, c'est que t'es pour le rough sex, en fait, sans préliminaire, c'est
complètement.
Ou l'amour avec des robots tous uniformes, tu vois. Et nous, on veut avoir de la lingerie benchmarkée. C'est chacun son truc.
Il est incroyable.
Non, mais je trouve ça intéressant. Il y a des gens qui, effectivement, font
plaisir
la sauce en disant « Ah, je vais comparer les trucs.
Ah,
finalement...
il a 0,3 gigaoctets. »
Voilà.
Arrêtez.
Ça peut toucher des gens.
Moi, je sais. Toi, l'âme, tu achètes des produits et tu les compares pendant des semaines. Et t'achètes le
justement,
bon.
C'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, peut-on encore acheter un produit en disant « J'aime bien, je prends. »
Moi, je peux pas. Il faut que j'aille sur les NUM ou je Google le truc ou que quand on part en voyage avec ma copine, eh ben, on est sur TripAdvisor ou Tripozo ou n'importe quel outil de recommandation parce qu'on peut pas prendre un hôtel.
Oui, mais...
parce qu'on a un dialogue de venture, on prend un hôtel parce qu'il a eu tant de notes.
Et parce que ça fait monter la sauce un peu. Il a raison. Non, mais c'est vrai, il a raison.
C'est ça. Vous vivez pas dans l'angoisse de dire, oh, je vais pas trouver d'hôtel, mais c'est, ah, oh, quel hôtel va nous apporter le moment le plus agréable, tu vois. Et c'est ça qui est cool.
C'est le printemps.
Et d'ailleurs, on achète beaucoup maintenant Sylvain, de produits sur Internet.
Oui.
Et la livraison fait aussi partie de ce moment-là où tu attends ton produit et t'as l'impression que c'est Noël quand c'est dans ta boîte aux lettres.
Ouais.
Surtout si
ouais,
mais en drone.
Et du coup,
non, mais on s'en fout de ta chronique.
Très bien.
Et du coup, quand le poivre les foire, c'est un peu le coq-bloc, quoi. C'est ça.
Voilà. C'est ça.
Mélissa, est-ce que tu peux encore acheter sur Internet de manière, alors, innocente ou non documentée ou sans demander l'avis de personne et dire ok j'aime bien one click buy et paf.
Bah oui parce que à force on a quand même fait confiance à certaines marques donc on achète que des trucs de cette marque là. Daz a fini par s'y faire difficilement.
Je vois pas du tout de quoi on parle.
Pas du tout la marque à la pomme. Donc oui enfin il y a certains trucs après le côté passer 6 mois à vraiment parce que je connais vraiment des gens qui font ça hein, 6 mois à faire tous les benchmarks. C'est vraiment de la perte de temps, quoi. Enfin, je veux dire.
Sur des trucs, ouais, on calcule à la virgule.
Surtout sur des produits qu'on garde 2 ans ou enfin 2-3 ans, quoi.
Non, c'est n'importe quoi.
T'as passé 6 mois sur 3 ans.
Donc, toi non plus, t'es en train de te dire, non, je vais pas me prendre la tête, je vais pas encore acheter de manière. Sans avoir à aller sur des forums. Marre,
vois, non, mais surtout l'âme, je te mets au défi de me dire maintenant quelle est la config exacte de ton PC.
C'est parti.
Attends, attention.
Non, on tricherait parce que je suis en train de réparer, donc je la connais.
Non, mais par contre, tu donnais tout à l'heure l'exemple du nombre de mégahertz de ta barrette de RAM. Ouais. Heureusement que ça existe. Parce que des fois, t'achètes une barrette de RAM et elle fonctionne pas.
C'est
et la DAS, jubile.
C'est de la DDR3.
Oui, voilà.
Donc, après, tu t'en fous qu'elle soit à 1366, 1066, 1266.
Ouais, mais.
Et après, encore une fois, de mon point de vue, quand on est à monter ton PC, je veux dire, je m'adresse pas là. Okay.
D'accord.
Au même marché en fait.
Ok, d'accord.
Je parle des gens vraiment qui, tu vois, qui confondent RAM et stockage. Ceux-là, tu vas pas leur confier une barrette de DDR3, ils sauraient même
et
pas quoi.
De toute façon, il faut bien un moment qui est un raisonnement logique. Tu vas à la Fnac, t'as les appareils photo, par exemple, je connais pas du tout les appareils photo, vous connaissez bien. Eh bien, t'as plein d'appareils photo qui se ressemblent vachement.
Eh ben, tu prends et le plus joli et on en parle plus.
Mais non, je prends le moins cher parce que le seul truc que je comprends, c'est le prix et donc j'ai qu'à prendre le moins cher, tu vois. Et si à ce moment-là, je veux prendre un bel appareil photo, je fais quoi? Ben, je suis obligé de prendre le plus cher, par exemple. Mais tout ce qui est entre, je sais, j'ai pas
ça,
de.
Ça, c'est pourquoi, et tu sais pourquoi ça? Oui. On est obligé d'en parler. Je sais que tu voulais pas le faire, mais on est obligé d'en parler. Parce que tu penses que la qualité de ton travail est recevable. Alors moi, je te le dis, tes photos, c'est de la merde. Et une fois que t'acceptes ça, une fois que t'acceptes de te dire, c'est pas parce que j'aurai un 5D Mark III que je saurais prendre des pures photos, eh ben la vie elle est beaucoup plus simple.
Non mais d'accord, mais
parce que tu te mets une pression, tu dis attends j'ai un réflexe numérique machin, il a coûté 1300 €, je suis obligé de faire des super photos. Parce que si je fais des photos bof, les gens vont dire mais c'est pas possible, il est nul.
Mais
alors si t'avais pris un jetable de merde.
Non, je suis pas d'accord. Tu vas sur le forum.
C'est normal.
Tu vas sur le forum hardware.fr. Que tu connais très bien.
Oui,
tu as des gros nerds de la photo qui vont benchmarker à mort ton full frame, 4/3, je sais pas quoi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Qui n'ont aucun sens artistique, aucun génie du cadrage, aucune façon de faire des portraits. Mais par contre, qui sont tellement des gros nerds de la photo, qui ont tellement benchmarké les appareils, qui ont le trépied dernier cri, et qui vont en fait avoir une vision totalement procédurale de la photographie, qui vont prendre des paysages magnifiques, peut-être en HDR.
Ah.
C'est pas recevable.
Non, mais qui vont prendre des paysages magnifiques avec une pose très longue sur une rivière, avec un filtre à densité neutre, taras, j'en sais rien. Mais qui vont prendre des superbes photos parce que c'est des gros nerds qui ont benchmarké ce que doit être un bel appareil.
Oui, mais ça, tu pourras le faire avec un appareil à 1300 € et un appareil à 600 €. Peut-être pas avec un appareil à 100 €. Et je suis d'accord, c'est pour ça qu'il y a des catégories.
En tout cas, pas avec un appareil jetable.
Mais du point de vue du vendeur, du fabricant, si tu as un appareil de milieu de gamme, d'accord, comment tu peux le vendre au client? Tu peux lui dire, bah nous on a un prix moyen, quoi?
Tu dis c'est un appareil de milieu de gamme qui couvrira tous vos besoins pour votre vie médiocre.
Ok, alors maintenant il y a 26 appareils de milieu de gamme. Comment tu fais pour qu'ils se
distinguent? Tu prends le plus beau.
Mais ils sont tous pareils.
Non, ils ont un design, il a une coque un petit peu rose pailletée.
Mais Fibre a un point intéressant, c'est vrai que si tu n'as plus de spec ni rien, on s'en remet beaucoup au prix. D'une certaine manière. C'est une sorte aussi de pauvreté dans le choix.
Est-ce que aussi.
Non, mais vous avez l'impression. C'est et c'est marrant que Fibre parle de ça, parce que c'était Fibre qui dénonçait dans un studio 404 la fausseté des informations liées à la fréquence d'horloge des processeurs et de tous ces trucs-là. Oui. Qui serait un complot des Illuminati qui nous gouvernent pour permettre, n'est-ce pas, de garder sous contrôle la race humaine en lui faisant croire qu'elle a le contrôle de son destin en achetant des CPU à 3 GHz.
Ah, c'est vrai, ouais, je m'en souviens.
Tu t'en rappelles de ça. Ouais. Et, là, tu dis le contraire. Et moi, je suis choqué. Parce que ça veut dire que tu as changé d'avis.
Non, je peux David, j'alimente le débat.
Tu as le droit de changer.
Voilà, maintenant vous savez.
Non, mais est-ce que le premier des benchmarks, est-ce que le premier banc d'essai de toutes ces specs sur Amazon, est-ce que c'est pas le vendeur de la Fnac justement?
Oui.
Qui va te dire, oui, madame, si vous faites du Word et du retouche de la retouche de photos, il vous faut absolument un MacBook. Est-ce que c'est pas justement la...
Oui, mais justement, là je parle exclusivement des sites. Hein. Je parle pas des.
Oui,
le truc des magasins physiques. Hein.
La question, c'est est-ce que sur Internet, on a une sorte de réflexe conditionné qui fait qu'on est obligé d'aller chercher des recommandations, des comparatifs, des choses qu'on peut plus acheter de manière.
En fait, c'est un diktat. On te force à prendre en compte des considérations qui te dépassent complètement au lieu de te laisser juste vivre ton truc comme tu l'entends et acheter ça parce que ça te fait plaisir. Et tu dis, ok, il est moche, mais les specs. Il a un corps i9.
Ben justement, le fait de le dire, en fait, c'est moins pour moi de la justification à l'achat que de la justification auprès de tes proches. Tu vois, c'est t'as pris quoi comme Android? Ah ben j'ai pris le Asus machin. Pourquoi? Ben mec, il a 2 Go de RAM, j'ai 128 Go de stockage avec une carte SD extensible.
C'est bien fait.
Je l'ai fait dans le sens. C'est aussi une justification auprès des tiers, auprès de ton entourage, de dire j'ai acheté ça parce que je suis un bon, parce que je suis allé voir les.
Mais j'en parlais, c'était la pression sociale. Et je dis libérez-vous de ces trucs là.
Tu peux plus dire j'ai acheté ce téléphone parce qu'il était rouge.
Tu peux plus.
Est-ce que t'as déjà pu le faire? C'est ça le problème, c'est que on essaie de trop. Enfin, je sais pas. Je trouve ça triste en fait de vraiment conditionner un achat par le biais de specs techniques dont tout le monde se contente.
Tu veux dire qu'il y a plus de poésie dans la consommation?
Est-ce que je dirais ça?
On reçoit beaucoup de spam aussi qui dit augmenter votre pénis de 5 cm. Excusez-moi de revenir encore dessus.
C'est printemps. Non mais c'est printemps. Je veux dire, Fibre, on comprend. C'est printemps.
Non mais je veux dire
uniquement sur certains sites quand même. Hein.
Non mais on soit,
augmenter les specs de votre.
Oui, donc c'est bien qu'il y a quelque chose de masculin par rapport aux chiffres.
Tu penses qu'il y a un truc de masculin par rapport aux specs? On va demander à des.
Attendez, on arrête là tout de suite ce débat.
Alors vas-y, mêlez ça.
C'est masculin d'aimer les specs?
Non, de vouloir la plus grosse.
Je pense qu'on peut trouver plein de meufs dans cette salle et ailleurs qui regardent des specs. Enfin, moi, je l'ai fait à un moment. Et en fait, j'ai arrêté de regarder les specs.
Spec ou bench?
Parce que quand j'arrivais. Non, les specs. Puis faire un benchmark en fonction des specs. Et en fait, quand je recevais le produit, j'avais pas le plaisir de me dire ah ouais. Enfin, je me disais, en fait, comme je sais pas s'il est meilleur que d'autres appareils photo, je sais pas s'il est meilleur, quoi. Il est bien, mais je sais pas si c'est le meilleur.
Parce qu'il est plus beau pour toi.
Non, je l'ai pas choisi parce qu'il est beau. Il y a vraiment des périodes sur les appareils photo où je regardais toutes les specs en me disant, ouais.
Oui.
Mais du coup, j'ai arrêté, quoi.
N'importe quoi.
Alors, juste une question avant qu'on passe au public. Est-ce que du coup, vous iriez sur le site de Daz? Qui ne possède qu'une grande photo du produit, le nom du produit.
Plusieurs photos. En macro et tout, je veux dire.
Un site avec qui vend des produits, on va dire high tech, qui n'a pas de recommandations, qui n'a pas de spec, qui n'a pas de notes, qui a juste un.
Ah, s'il parle d'une classification.
Un prix, voilà. Un truc.
De
mais vraiment, il y aurait une classification à la louche.
Un truc minimal. Est-ce que vous achèteriez dessus ou est-ce que vous. Et si vous ne pouviez pas.
Est-ce que vous iriez sur le journal du Geek pour avoir le top 10 des appareils photo numériques?
Non, j'irais sur le site de Daz, moi, ouais.
D'accord, toi voilà. Tu pourras acheter sur le site de Daz.
C'est le Daz.
Oui,
Fibre.
Oui, s'il y a des avis utilisateurs.
Non, justement, il n'y en a pas.
C'est de la folie. Non. Mais c'est okay. Absurde. Ça
mais
aucun
non,
sens.
Parce que tu sais que c'est bidonné à partir du moment où.
Mais
tu peux
bidonner les avis. T'as jamais acheté sur Internet. Tu vas sur Amazon. Effectivement, un produit où il y a 5 avis utilisateurs, c'est suspect. Mais quand t'en as 238 qui mettent une étoile ou 5 étoiles.
Et que tu fais un cross-check des personnes qui commentent et tu te rends compte qu'ils commentent sur tout et n'importe quoi.
Mais peu importe.
À un rythme industriel et tu crois vraiment que c'est des gens.
À un moment, il faut croire aux statistiques. Je veux dire, Médiamétrie, ça marche avec 1050 personnes. Alors, quand t'as 1000 avis sur un produit,
tu veux qu'on
ça
en parle des
peu.
Statistiques qui façonnent le monde aussi. C'était un de tes avis, ça aussi.
Ouais, ça.
Surtout ça. Médiamétrie. On en parle ou pas?
Sylvain, la journée de la remise en question.
Sylvain, est-ce que tu achèterais sur ce site minimaliste, donc très hipster, qui fait beaucoup rire.
Je vais sur le site de Daz parce qu'il y a des très belles photos.
et que
surtout, il y a une sélection humaine des produits.
Mais
et
tu
ça,
sais pas.
Et ça, c'est important.
Tu ne sais pas.
Et par contre, dès que je trouve un produit cool, dès qu'il y a une belle
description, je vais me rencarder dessus.
Je vais sur The Verge voir le test.
Alors The Verge en plus, bon. Voilà. Je conseille le journal du Geek.
Sur le journal du Geek. Très bien.
Est-ce que dans le public, à part le rédacteur en chef du journal du Geek, il y a des réactions? Du coup, on va commencer
par monsieur Journal du Geek. Bonjour Anne, fan du Journal du Geek.
Salut tout le monde. En fait, la seule question que j'ai vraiment, c'est qu'il y a une considération qu'on prend vraiment pas en compte, c'est est-ce qu'on a le droit encore de se planter. C'est-à-dire là, on va choisir un smartphone, on va choisir une carte vidéo, on va choisir n'importe quoi. C'est 300 euros, 400 euros, 500 euros. Pour les iPhone et Galaxy S6, typiquement, ça monte à 800 euros. L'Asus, il est à 200 euros.
Il connaît tous les prix.
Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment important le fait de se dire, ok, alors oui, j'hésite entre un iPhone 6 ou un Galaxy S6. D'un côté, on me dit, oui, il y a peut-être le Asus avec les 3 gigas de RAM ou ce que tu veux, qui est plutôt pas mal. Et surtout, il n'est qu'à 200 euros. Donc, la composante prix rentre évidemment en compte.
C'est pour ça que je propose de la conserver. Hein.
Et surtout, la technologie fait que, je pense que la technologie n'est pas encore un domaine où on peut acheter par impulsion comme des fringues, comme des baskets. D'accord. Ou des choses comme ça. On peut pas arriver devant quelque chose et se dire tiens, je vais acheter comme une paire de Nike AirTech Challenge Lava, Hot Lava que tu connais bien, et de l'autre côté se dire tiens, aujourd'hui, je vais prendre l'Asus, je sais pas quoi. Donc, pour moi, le fait est qu'on est, on a toujours pas le droit de
mais
se planter.
D'accord. Non, mais c'est pas un problème de prix.
C'est un problème de non-connaissance. Tu ne connais pas, tu sais pas effectivement, tu te dis, toi, en tant que spécialiste, que 3 gigas de RAM, c'est génial parce que ça fait tourner au moins tes 10 applications multitâches. D'un autre côté, 1 giga de RAM, effectivement, ça fait peut-être pas tourner tout ça, mais pour certains utilisateurs, c'est peut-être suffisant. À 129 euros, c'est encore mieux que de payer 600, 700 euros pour avoir ces 3 gigas de RAM. Donc c'est vraiment une, ça pour moi c'est vraiment un tout en fonction des besoins de chacun et la technologie n'est pas encore.
Mais justement, donc mon point aussi c'est précisément de dire que tu as des téléphones avec 1 giga de RAM qui utilisent un système d'exploitation qui est juste qui adresse mieux la mémoire que d'autres. Et c'est pour ça que sincèrement, ouais. c'est pour ça que moi j'ai utilisé un HTC One qui était le flagship chez HTC sous Android pendant 2 ans. Il était dual ou quad-core avec je sais plus combien de RAM dedans et il tournait moins bien qu'un iPhone 4.
Mesdames et messieurs, Pierre Belmar, c'est
pas... c'est bien la preuve que l'aspect pour l'aspect ça sert à que dalle.
Tout à fait, mais c'est comme si tu t'essayais de comparer, je sais pas moi, c'est comme les voitures, il y a les voitures, pourquoi t'achèterais du Renault ou du Peugeot, parce qu'on sait que Peugeot ça consomme plus qu'une Polo ou quelque chose chez Volkswagen. Pourquoi on achète ça?
La voiture elle a une belle couleur et puis qu'elle te le plaît.
Mais oui, mais non. Non, c'est comme quand t'achètes une voiture, t'es obligé d'avoir les specs. Effectivement,
On va te dire, non, c'est du diesel, il y a 4 places.
Tu vas acheter ta 207. Admettons, t'achètes ta 207. Tu achètes ta 207 au départ, mais qu'est-ce que tu as specké derrière à part le truc? Tu vas savoir quel moteur tu veux prendre, quel niveau de finition. T'es obligé de specker.
C'est la puissance fiscale. C'est tout. Je dis, je veux une voiture de 10 chevaux. Voilà.
Toutes ces femmes de corps de gaz. Non, mais ce qui est intéressant de la part de Anne-Fan du Journal du Geek, qui est intéressant, qui dit, est-ce qu'on peut encore se tromper dans son achat? Et le high-tech, est-ce qu'il peut te laisser faire des achats qui sont, on va dire, perfectibles? Comme on achète effectivement une fringue qu'on va pas forcément mettre, mais c'est pas grave. Mais du coup, c'est quand même plus important, dès qu'on achète du high-tech, de se dire, j'ai eu raison ou je ne vais pas me tromper surtout. C'est un point de vue intéressant.
Non, c'est les gens qui te disent, t'as eu raison.
Ça compte, mais je suis assez d'accord avec Anne-Fan sur le fait que culturellement, l'achat technologique, et encore un achat où il faut comparer, où
c'est un achat plus raisonné,
où on peut pas se tromper, où c'est raisonné. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que l'achat, t'as évoqué l'achat des fringues tout à l'heure, se dirige de plus en plus vers ce genre aussi de réflexion.
D'accord.
Si sur pas mal de vêtements, je pense par exemple à Uniqlo, à ce genre de choses, tu vas.
Oui.
Les mecs refont leurs articles.
Mais oui, mais parce que j'ai une réflexion dessus. Et effectivement, tu vas te justifier de cet achat en te disant, ouais, mais tu sais, mec, c'est du e-tech, c'est une technologie.
Non. Alors justement, tu prends le marché de la sneaker, c'est totalement faux. Tu vas acheter une paire de AirTag Challenge 2 French Open qui coûte 300 euros, alors qu'elles sont exactement comme les Hot Lava qui coûtent 200 euros.
On cherche un modèle économique, je sais pas si vous avez capté.
Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que les gens te disent, oui, mais pour un smartphone, on peut pas déconner parce que quand même, ça coûte 800 euros. Sauf que il y a des paires de chaussures qui coûtent 1000 euros et que tu achètes à l'impulsion.
Ouais, oui, mais il y avait le prix.
Après, tu manges des pâtes.
On parlait du prix, mais on parlait des specs. Mais dis ça, est-ce que tu penses aussi que, comme disait Anne du Journal du Geek, il y a une sorte de différenciation sur certains achats, on va dire technologiques, genre les voitures?
Non, mais le truc, c'est que les achats technologiques, il y a plein d'aspects. Alors que quand t'achètes des chaussures, tu regardes quoi? Tu regardes la beauté du produit, À la limite, s'il a un talon, pas de talon, mais ça s'arrête là. Alors que quand t'achètes un iPhone, t'as 1000 trucs. Donc forcément, il y a 1000 trucs, tu te dis, ah, je vais essayer de savoir. Et de fait, ça vaut aussi plus cher qu'une paire de pompes.
D'accord. Parfois. Fibre, est-ce que tu trouves aussi qu'on peut moins se tromper sur certains types d'achats?
Oui, oui. Même 200 euros, c'est cher, quoi. Hein.
Ouais.
Donc voilà.
Ça dépend, tu récupères la TVA, Fibre, dessus.
Fibre achète des Segway, donc quand t'as acheté ton Segway,
ouais.
Est-ce que t'as comparé toutes
alors
les
attendez,
specs?
Je n'ai qu'une seule méthode
c'est
d'achat.
C'est vrai qu'il est rouge ton Segway, Fibre.
Je n'ai qu'une seule méthode d'achat, j'achète le moins cher, tout le temps. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper.
ça marche pas tous les coups.
Ça marche pas à chaque fois.
Quoi? Si, pour moi, ça marche très bien en tout cas.
Très bien. Voilà. Une deuxième question, monsieur.
En fait, pour te rassurer, Daz, c'est des milieux qui brassent énormément d'argent et qui payent des gens très cher pour savoir si en effet ton mode de présentation que tu suggères va générer plus de ventes que le mode actuel. Et si on en est là, après tant d'efforts dépensés à faire de l'UX et de l'A/B testing, etc., c'est qu'en fait, les gens attendent ça.
Donc les gens veulent des specs, des avis, ils veulent des recos.
Il faut les
changer.
Non,
il
faut les forcer à abandonner le
lecteur
disquette.
Il y a tellement d'argent qu'il y a des gens très intelligents derrière pour penser de l'UX, etc. Et si on revient au site d'Apple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le site d'Apple pour se donner envie et avoir en effet la belle photo, les trois aspects qui vont bien, mais qui finissent sur les sites la Fnac ou autre avec ou le Journal du Geek pour avoir toutes les specs détaillées avant de peut-être revenir sur l'achat d'Apple. Et juste, il y a tellement d'argent, tellement d'intelligence dépensée à savoir ce que veulent les gens, je te promets. C'est ça qu'il veut.
C'est son métier. C'est son métier.
Donc là-dessus, vous rejoignez Sylvain qui disait ah, j'adore ton site, mais j'irai quand même voir à côté ce qu'il vaut pour ensuite revenir sur ton site et acheter. Est-ce qu'il y a encore une réaction dans le public? Ah, il y en a plein. Alors, priorité à quelqu'un qui n'a pas parlé. Bonjour.
Bonjour.
Alors.
Alors moi, j'ai l'expérience contraire de Daz en fait. J'avais un ordinateur super que j'avais acheté. J'avais regardé toutes les specs, la mémoire, la puissance, tout. Il était génial. Je l'adorais. Il a crashé. Et j'ai dû acheter un ordinateur très rapidement. J'ai vu un Sony Vaio. Je me suis dit, Vaio, c'est de la bombe. Il est pas cher. Il était beau. J'ai regardé les specs. Ça allait. Je l'ai pris et il était très déceptif, en fait. C'est-à-dire qu'il allait moins vite.
Donc, tu t'es fait avoir.
Tu t'es fait avoir deux fois.
T'as regardé l'aspect. Tu t'es fait avoir. T'as dit, allez, je m'en fous, yolo.
Mais il faut pas que tu changes d'avis. Voilà. Il faut que tu restes comme ça. Là, c'était une mauvaise expérience. Ça arrive.
C'est deux mauvaises expériences.
Non, mais c'est parce qu'il a commencé trop fort sur
là,
la première.
Il en a 1500 euros de dépensés. Là, il commence à en avoir marre, tu vois.
Mais donc, ce que tu veux dire, c'est que d'une certaine manière, il n'y a pas de meilleure méthode.
Alors si, la meilleure méthode, en fait, c'est de regarder les specs, mais de ne pas donner une importance considérable aux specs. Et là où le Journal du Geek, c'est intéressant, c'est que...
Tu n'oublieras pas le chèque,
c'est
tout à l'heure.
C'était une intervention sponso.
Non, mais bon, le Journal du Geek, oui. Les numériques, les tests sur YouTube, c'est intéressant, c'est qu'ils donnent un avis humain, ils font des comparatifs...
C'est une base quand même du coup.
Et si tu regardes une vidéo, tu vois deux ordinateurs par exemple ou deux téléphones fonctionner les deux en même temps. Tu vois lequel est le plus rapide, tu vois lequel te plaît le plus. Et moi je me base sur ça en fait. Je me base sur les avis, sur les spécifications, sur les vidéos YouTube. Et bon, je passe pas des heures, mais quand même je regarde tout.
D'accord.
Mais qu'est-ce qui se passe justement si par exemple sur cette vidéo de comparatif, le téléphone qui va plus vite? Il se trouve que c'est celui qui a les plus mauvaises specs. Comment tu...
Eh ben, j'ai acheté un Chromebook pas cher.
Là, je suis désolé.
Attends. C'est que pour aller sur Internet.
Condoléances totales.
Non, mais
moi, je te soutiens.
Parce que l'ordinateur que j'ai acheté, se déconnectait d'Internet régulièrement. Donc, après un an et demi, quand même, je me suis dit, je vais acheter un autre ordinateur. Et j'ai...
T'as vraiment pas de chance, quand même.
Il est un peu poissard, mais il en faut.
Et il se trouve que j'ai regardé une vidéo. Le mec sur la vidéo disait ce Chromebook est moins bien que celui-là. J'ai pris le moins bien parce que j'ai vu qu'il allait plus vite et il avait pas des super specs. Mais ben je suis super content. Il est pas très beau. Il va très très vite parce que c'est de la SSD. Il est aussi efficace que le MacBook Air de mon père qu'il a payé 800 euros de plus. Et franchement, à part qu'il a moins de mémoire, ben moi, je suis
félicite.
Super content.
Je te félicite.
Et donc du coup, t'as suivi une recommandation humaine.
Ouais.
Une reco quand même.
Ouais.
Ah, donc,
non, mais on dépit des specs. Donc, moi, ça me va.
Très bien. Et bon, on finit sur ce petit.
C'est bon, j'ai gagné. Allez, salut.
Allez, on attaque la dernière FAQ.
FAQ.
Allez, une dernière question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Oui, monsieur. Bonjour.
Bonjour. Alors moi j'ai une question, c'est juste est-ce que avec le fait de consommer l'information sur Twitter, sur pas mal de sites qui sont un peu qui essaye d'avoir une ligne qui est pas forcément neutre, on n'a pas l'impression d'avoir que la moitié des informations et toujours des informations orientées et du coup pas pouvoir se faire son propre avis. Enfin, c'est difficile.
Mmh. Alors, est-ce que sur Twitter, donc on va
mais
sur pas Twitter, réseaux sociaux
sur, ouais, sur les réseaux sociaux, comme c'est souvent soit des personnes qui relaient ou.
Ouais, mais du coup, c'est diversifié. Enfin, c'est pas une seule couleur.
C'est diversifié comme t'as envie que ce soit diversifié d'une certaine manière.
Ouais.
Oui,
ouais.
Non, mais enfin, de toute façon, bon, tu suis que les gens qui pensent plus ou moins comme toi. Donc, de toute façon, à un moment donné, t'es quand même dans le même sens de pensée, je vais dire. Mais à la différence de. Enfin, moi, je trouve ça super important, par exemple, que des publications soient orientées et un avis. C'est pour ça que ça permet de dire, bah, le Figaro, bon, voilà. Libé, c'est des bobos, mais ils sont sympas. Et ce qu'il faut, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'arrêter.
Daz résume la presse. Tu sais.
Là. Donc pour les aides, toi, tu en dénonces.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'arrêter justement à une seule source. Pour moi, il faut par exemple lire Libé en sachant qu'ils sont de gauche, pondérer avec un petit peu du Figaro en sachant qu'ils sont fous, et réussir à trouver un juste milieu, ce qui fait que tu arrives sur Le Monde, en fait, normalement, si je me trompe.
Mais est-ce que d'une certaine manière aussi, donc, sur les réseaux sociaux. On a l'impression d'avoir une sorte de pluralité, mais en fait, on ne voit pas ce qu'on voit. On voit des choses de manière. C'est pas
justement, partielle. Moi, je trouve que sa question, elle en soulève une autre encore plus intéressante. C'est est-ce que
Sylvain.
Quand on construit, parce qu'un réseau social, c'est quelque chose qui se construit comme un outil, on se construit une timeline en suivant des gens. Est-ce que finalement, en suivant un petit peu les gens qui sont comme nous, est-ce qu'on finit pas par avoir des avis qui nous confortent dans nos décisions et pas d'avis pluriel parce qu'on ne va pas voir ailleurs ?
Fibre.
C'est ma FAQ.
Oui, c'était FAQ.
J'irai encore plus loin en disant que. C'est ce que je me tue à dire depuis 5 ans, c'est qu'aucune information n'est réfutable en temps réel. On vous dit, vous voyez sur Twitter quelqu'un qui vous dit la tour Eiffel vient de s'écrouler, bah, personne ne dit le contraire. Donc, a priori, vous avez une information, vous ne savez pas si elle est vraie ou elle est fausse, même aussi incroyable qu'elle puisse être. Moi, j'étais sur Internet, en tout cas le jour où il y a eu les Twin Towers, donc c'était vraiment quelque chose de particulier. Donc, je pense que non seulement il y avait cet exercice au temps de la presse papier de pondération des orientations des médias, mais là il faut vraiment allumer Twitter comme on allume la télé, un spectacle, prendre les informations et vraiment
il faut leur donner le poids qu'elles méritent,
que la construction soit uniquement intérieure et pas du tout il faut pas du tout se reposer sur ce qu'on voit de l'internet.
Il faut aller plus loin,
Mélissa,
ouais. Clairement avec Twitter normalement tu peux aller de source en source et tomber sur des sources que tu ne connaîtrais absolument pas parce que tu dis se faire son avis. Et donc, tu peux justement aller chercher, comme toi, tu as l'air de dire, c'est un peu toujours les mêmes informations. Ce que te permet Internet, c'est quand même d'aller te faire ton avis en allant chercher des sources que personne ne connaît et que parfois tu vas voir arriver sur Twitter et parfois pas. Mais Internet a quand même permis ça, justement, et de plus avoir ces trois médias avec ces trois points de vue qui te donnent la plupart du temps les mêmes infos, quoi.
Tu peux aller sur F2Souche, par exemple.
Ou 4chan.
Pour te renseigner sur la paranoïa.
Enfin, je veux dire, tout est là. Quoi. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'aller les chercher et que ça ne vient pas forcément à toi spontanément, mais ça me semble être la meilleure façon.
Je ne sais pas si on a répondu à la question.
Non, je ne suis pas du tout sûr.
Si.
Eh bien, très bien. Comme ça, on peut attaquer. Le tout dernier débat, accrochez-vous, ça va être lourd, ça va être compliqué, ça va être pénible, parce que c'est important, c'est la chronique de Sylvain.
Sujet numéro 4.
La loi sur le renseignement est dangereuse, mais elle est surtout chiante.
Alors, c'était stratégique. Ah oui. On s'est dit, c'est dimanche, il fait beau, ça va être la fin de l'émission. Les gens vont se dire, putain, il reste plus beaucoup de soleil, il est 15h quand même.
On va finir sur une bonne note.
On va finir sur une chronique encore plus lourde. Donc, on t'a bien mis dans le contexte qu'il te faut pour parler donc de cette fameuse loi.
Là, c'est parfait. On est en train de digérer. On est un petit peu sleepy. Je suis pas en train de lever un lièvre. Hein. Chacun sait autour de cette table, chacun sait dans cette pièce, sur Internet, en France. Et même au-delà de la France, que notre gouvernement et nos députés sont en train de voter une loi qui fait couler beaucoup d'encre et scintiller beaucoup de pixels.
Ouais.
Très belle métaphore, j'aime bien ça. Les médias de masse en parlent, sur les réseaux sociaux aussi, les hashtags fusent, PJL renseignement, ni pigeon ni espion, sous-veillance, etc. etc. Et pourtant, qui a pris 5 minutes pour essayer de comprendre de quoi il s'agit ?
Alors juste 2 secondes, dans le public, qui s'est réellement documenté sur ce projet de loi sur le renseignement ?
Quand même, bravo. Oh
là là. Bravo.
J'irais un tiers.
Superbe, bravo.
Ce qui est pas mal et ce qui est peu en même temps.
Eh ben ouais, c'est peu. C'est pas grand monde finalement parce que 5 minutes, même si c'est notre et votre créneau de concentration maximale, bah ça suffit pas pour comprendre ce projet. Pour écrire cette chronique, je me suis plongé dans tous les articles écrits sur le sujet ces dernières semaines. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail des journalistes qui ont peu dormi ces derniers jours afin de nous livrer un compte-rendu détaillé des analyses fouillées à ce sujet. Andrea, Olivier, Martin, Alexandre et les autres. Gros bisous.
Tu les appelles par ton prénom.
Spécial dédicace, Skyrock, Tifoul. Je me suis donc plongé dans tout ce contenu et en effet, 5 minutes, c'est un peu limité. Ça m'a plutôt pris 3 heures à survoler. Donc, je suis même pas allé dedans, quoi.
Mais
ça m'a quand même pris 3 heures. Ouais, bah oui, je me suis donc plongé, voilà, dans ce contenu et je me suis permis d'emprunter une méthode propre à l'expérience utilisateur, à Lux, qui s'appelle The User is Drunk.
The User is Drunk.
L'utilisateur est en état d'ébriété, c'est en français.
Comme un gonzo journée, tu t'es bourré la gueule en décrétant.
Voilà, je me suis dit, est-ce que bourré, je peux comprendre le projet de loi? Et ben, vous voyez la fin de Lost?
Ouais.
Pareil.
Moi, j'ai adoré.
Moi aussi, j'adorais. Complètement paumé, entre aspects juridiques, économiques, politiques et surtout techniques. Sérieusement, si moi je bite rien à l'implémentation techno d'un tel dispositif pensé par des ingénieurs en renseignement, comment voulez-vous que ce type y comprenne quelque chose?
Qui est ce type? J'ai sur cette photo le visage du coupable. Alors, qui est ce type que
Gérald Darmanin, qui est député à l'Assemblée et qui participe donc au projet de loi et qui essaye lui de comprendre comment fonctionnent les boîtes noires et les algorithmes. Et il fait cette tête là, voilà. Et pourtant, ces mecs, ils sont brillants, hein. Et ils votent en ce moment une loi qui a l'air, de ce que j'en ai parcouru, un petit peu dangereuse pour nos gueules. Ils sont assis sur leur banc en train de parler d'algorithmes sans savoir de quoi ils parlent réellement, ni ce que ça implique vraiment. Soyons lucides 2 secondes, vous non plus. Vous non plus, les gars, vous non plus, vous savez pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, vous n'en parlez pas. Et c'est bien ça le problème. Je crois que, en fait, on est trop fainéant pour une loi trop sérieuse. Si je vous dis que demain, un type un peu louche avec une oreillette peut poser une mallette dans votre cave ou dans une voiture en bas de chez vous et être capable de capter absolument toutes vos conversations, vous me répondez KGB. Et moi, je vous réponds projet de loi sur le renseignement. Si je vous dis que demain, étant donné que vous avez 4 ou 6 degrés de séparation avec n'importe qui dans le monde, eh ben vous êtes ami avec un terroriste et considéré comme suspect jusqu'à preuve du contraire. Vous me répondez Guantanamo. Et moi, je vous réponds projet de loi sur le renseignement. Si je vous dis que demain, sur demande express du Premier ministre, celui-là ou le prochain, votre FAI peut filer toutes vos métadata échangées sur le web, incluant les gens avec qui vous correspondez et les sites que vous visitez. Vous me répondez Corée du Nord. Et moi, je vous réponds projet de loi sur le renseignement. Alors,
je vois bien que ces petits slides.
Alors, on fait moins les malins. Et ben ouais, mais pourquoi vous branlez rien en fait? Pourquoi vous êtes pas allé manifester?
Parce qu'ils se branlent justement.
Pourquoi on n'a pas tous mis des avatars noirs et tout comme des vrais activistes d'internet?
Des vrais activistes d'internet.
Pourquoi, malgré le fait qu'énormément d'acteurs, des hébergeurs notamment du web et des ONG, tous ces gens-là prennent position? Et on ne remplit pas de pétition, on n'appelle pas nos députés. Pourquoi on n'a pas fait une BD sur le chalutage profond du web? Une des réponses amenées par Libé, c'est que cette menace, elle est pour l'instant invisible. Pour Adopi, on voyait clairement le problème. Pas d'épisode de Naruto pour madame et pas d'épisode de Grey's Anatomy pour monsieur.
C'est l'inverse, mais bon.
Non, pas de Jean-Yves. Ouais.
Check tes prix.
Inattaquable.
Coucou les féministes.
Là, c'est plus diffus, c'est moins concret. Autre réponse, effet Charlie. Tout le monde a flippé et est prêt à lâcher pas mal de vie privée pour un petit peu de sécurité. Mais alors, l'effet Snowden, est-ce qu'on peut opposer un effet Snowden à un effet Charlie? Bah, Snowden, c'est comme quand ton partenaire pète pendant l'amour. C'est arrivé, on le sait.
Vous allez trop loin aujourd'hui.
On le sait tous les deux. Ça a un petit peu brisé la magie, il faut bien se l'avouer, mais bon. C'est pas un petit bruit et une odeur un petit peu acre qui va nous empêcher de continuer. Donc on continue.
C'est le printemps.
Je fais volontairement dans la vulgarité. Parce que je sais qu'il faut un petit peu de ça pour que vous écoutiez. C'est une leçon que j'ai apprise chez John Oliver. Ce chanceux est allé interviewer Edward Snowden. Et au lieu de lui parler liberté, responsabilité, sécurité nationale, philosophie, métaphysique, ce génie a eu le cran de lui donner une leçon de communication. Il lui a expliqué que tant qu'on n'évoquait pas quelque chose qui touche les gens dans leur quotidien, personne ne s'y intéresse. Que voulez-vous, l'être humain est profondément nombriliste. Il lui a donc demandé de lui raconter les différents programmes d'écoute de la NSA en prenant pour exemple la photo de son pénis, qu'il enverrait à différents contacts. Paris réussi, dès qu'il y a du concret, les gens sont terrifiés et ils réagissent positivement. Alors, que dois-je vous dire pour que vous preniez conscience de la dangerosité de cette loi? Je suis ouvert aux suggestions. Et le pénis est déjà pris.
Applaudissements pour Sylvain. Oh, c'était intéressant.
C'était intéressant. On y va maintenant?
Oui, ça parle de pénis. Du coup...
Mais du coup, on sait toujours pas de quoi dire.
Non, voilà. Déjà dans les chroniqueurs, lesquels se sont vraiment renseignés.
De toute façon, je sais pas de quoi ça parle. Hein,
lesquels sont vraiment renseignés et sont vraiment au courant des tenants, des aboutissants et des modus operandi de cette hashtag PLR.
Bah moi, j'ai commencé à lire des papiers.
T'as commencé. Aussi un peu mon Fibre, t'es très au courant ou pas?
Alors, je lève une demi-main pour dire qu'il y a la timeline du patron d'OVH qui est assez intéressante sur Twitter, dans lequel il explique avant et après l'amendement, parce qu'il y a eu un amendement qui a changé bien des choses et qui explique notamment qu'il y avait des boîtes noires depuis belle lurette dans les trucs. Simplement, ils n'avaient pas le droit d'appuyer sur le bouton et maintenant ils ont le droit. Et
donc, tu te considères comme à moitié au courant?
Oui, enfin, j'ai un avis que je vais développer sur le fait que je m'en fous, mais je suis à moitié au courant.
D'ailleurs, on a reçu une alerte tout à l'heure avec Mélissa, du Monde, qui dit que François Hollande a saisi le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne ne sait ce que ça veut dire.
Présidentielle, voilà.
On sait pas. En fait, on ne s'intéresse pas à la politique, je crois.
Daz, est-ce que toi, tu es au courant ou pas? Honnêtement.
Je savais que c'était dans les cartons, mais non, je ne me suis pas.
Et t'as vu The Wire ou pas? Parce que t'as vu The Wire, ils ont du mal, ils aimeraient cerner le trafic de drogue, mais ils ont du mal parce qu'ils peuvent pas poser les écoutes, ils ont des problèmes.
Ouais, ouais, bien sûr, et t'es d'accord avec eux, tu vois, quand on sait que les mecs en face c'est des gangsters, tu dis bah oui, c'est quand même con de devoir demander une commission rogatoire ou l'avis d'un, l'aval d'un
mais
juge.
Mais là tout le monde sera un gangster.
Pour aller braquer des gangsters, mais ça veut pas dire que je suis, enfin pour aller arrêter des gangsters, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce truc-là. Parce que je pense effectivement qu'on n'est pas tous gangsters, mais après j'ai pas les tenants et aboutissants, enfin j'ai pas en tout cas la finesse de jugement et d'analyse du truc.
Pourquoi, du coup, pour quelque chose qui est très important, qui nous touche tous.
Moi, j'attendais la chronique de Sylvain, c'est tout.
Voilà.
Non, mais pourquoi? Je suis pas beaucoup plus avancé, donc je vais être obligé de regarder.
Justement, la question, c'est, il y a un sujet sur cette loi, mais ce qui est pas le vrai débat, le sujet, c'est pourquoi, sur Internet, les gens s'en foutent? Est-ce que c'est pas assez
c'est
ludique
quoi.
Est-ce que c'est pas assez facile à partager? Est-ce que c'est pas...
Élément de réponse,
Fibre.
On est en France.
Ah.
Et...
un petit élément de réponse.
Non, mais... avant, on avait un pistolet à bouchon. Maintenant, on a un M16.
Ouais.
Mais la personne qui le tient, c'est la même personne. Et avant, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait écouter les gens qui téléphonaient avec un vieux téléphone à combiner. Et qui on a écouté? On a écouté Sarkozy. Et demain, cette loi, elle est passée uniquement pour les présidentielles. Ils veulent juste lever des dossiers. Ils veulent juste pouvoir espionner plus profondément.
Ah,
à mon avis, c'est absolument
théorie du complot.
La théorie du complot.
Alors non seulement c'est pas la
conspirationniste.
Je vous invite à regarder l'émission Ce qu'il fallait décrypter sur iTélé sur la PJ. Justement, qui parle exactement de ça, et Claude Bartolone qui dit oui, ça va être un petit peu politicien
donc
ce problème.
Tu écoutes des politiciens parler de cette loi et tu leur fais confiance à eux et pas à lire les projets de loi.
Factuellement, les écoutes, l'affaire des écoutes, c'est on n'a pas écouté Madame Michaud, on n'a pas écouté Mélissa Bounois, on a écouté quelques mecs.
Le problème, c'est que là, ils uniquement... pourraient m'écouter moi, tu vois.
Mais ils peuvent.
Même s'ils veulent écouter Bartolone.
Mais ils pouvaient t'écouter avant. Il suffisait simplement.
Oui, mais là, c'est dans un projet de loi, c'est dit. Parce que là, ils disent que ça légalise un truc qui existait déjà.
Avant, on pouvait écouter ton téléphone, maintenant, on peut regarder dans tes mails, tu vois. C'est ça la différence. Mais avant, on pouvait t'écouter toi. Mais personne n'en a rien à foutre de t'écouter toi, même si tu étais un terroriste, surtout les terroristes qui sont au Yémen. Ils utilisent du papier.
Tu sais que si on laisse faire ça, du coup, ils peuvent aller encore plus loin et tout le monde va laisser faire.
Mais
et
justement,
personne saura, quoi.
C'est
l'idée
ça
aussi,
l'astuce,
c'est que les gens
c'est qu'on est en France.
Mais en fait, c'est
et
pas
c'est
le débat.
Les mecs qui sont dans.
Je suis désolé de vous recadrer, mais c'est pas le débat.
Tout ça, ce que je voulais dire, c'est que ça sera pas trop d'impact. En tout cas, ce sera surtout pour des manœuvres politiciennes, comme toujours.
Ça n'aura pas trop d'impact pour toi parce que
je suis pas encore en politique.
Ne le sois jamais.
J'ai encore. Le Fibre 2017, j'ai hâte de le voir celui-là. Non, la question était de savoir pourquoi les gens s'en foutent. Alors que sur Internet, les gens ont tendance souvent à, effectivement, comme tu dis, mettre les fameux portraits noirs ou verts ou solidaires.
C'est pas je suis partage... Charlie ou je suis pas Charlie.
Si, il y a eu je suis sur écoute.
Oui, mais, ça a été très peu partagé.
Et pourtant, il y a des initiatives. Il y a un site qui s'appelle donc surveillance.fr qui permet d'appeler son député avec des formulaires automatiques qui te sort le député de ta circonscription, etc. T'as une pétition en ligne à signer sur ni pigeon ni espion avec tous les acteurs qui se mobilisent, etc. Mais moi, j'ai l'impression que les gens n'en ont rien à branler.
Non, mais ça commence à venir aussi parce que, genre, Laurence Parizeau du MEDEF, là.
C'est la patronne du MEDEF.
Ex-patronne du MEDEF. A commencé à se placer là-dessus. Donc, en fait, je pense que mine de rien, ça montre que les gens commencent à s'y intéresser parce que même des acteurs qui sont pas forcément les plus au cœur de ce sujet commencent à réagir là-dessus.
Mais attends,
donc,
le MEDEF de droite,
faut aussi laisser
et tous les mecs
le temps,
UMP
quoi.
Qui ont voté
parce
contre,
que le truc,
ils flippent à mort qu'ils sortent les dossiers. C'est
le
sûr.
Truc date du 19
mais
mars.
Ouais, mais c'est évident.
Le truc date du 19 mars. Est-ce que tu as vu des gens se ruer sur des textes de loi au bout de 3 semaines?
Oui, voilà. Non, mais la question, c'est un sujet important. Donc les médias en parlent, comme tu dis, Sylvain. La question, c'est pourquoi nous, on ne relaie pas et on ne s'offusque pas alors que lorsqu'il y a une marque qui fait un bad buzz parce qu'elle a fait un mauvais les slogans, tout le monde se lance dessus. Le fameux chalutage profond, on en avait parlé avec et sans Pénélope. Ça avait cartonné aussi parce qu'il y avait une BD et que tout le monde avait partagé. Ça avait fait une sorte de trending global. Chose,
mais parce qu'il n'y a peut-être voilà. pas encore eu le.
Pourquoi là, d'une certaine. Enfin,
par exemple, la BD, quoi.
Pourquoi tout le monde s'en fout maintenant?
Prenons l'exemple du pénis de Sylvain Palais.
Alors, prenons l'exemple du pénis de Sylvain Palais.
Sylvain envoie son pénis sur Snapchat.
Je vais vous montrer le pénis de Sylvain.
Il envoie son pénis sur Snapchat. Ok. Les renseignements. On capte ce pénis. Et ils en font quoi? Je veux dire, franchement.
Ils le mettent dans leur collection
mais
de pénis.
Mais ils l'ont, quoi. Ils l'ont.
Mais ils l'ont, et alors? Je veux dire, ils s'en foutent. Il l'a envoyé à 10 milliers de personnes.
Donc toi, c'est bon, en fait, t'es pour la loi.
Non.
Quoi? Genre, t'es content de savoir que c'est possible qu'il puisse aller dans tes mails, quoi. Et si un jour, t'écris genre un mot ou un truc, et que du coup, t'es fiché, et que si t'arrives à la police, t'arrives à un truc.
J'étais sûr que ce débat allait déraper sur son
mais
son...
il y a un énorme problème. Je veux dire, demain, la police, elle dit voilà, monsieur, vous avez dit que vous étiez un terroriste. Ce que je dis souvent, d'ailleurs, par mail. Et je dis, bah écoutez, j'ai pas encore posé de bombe.
J'imagine, voilà. Je suis le terroriste de ton cœur.
Oui, c'est ça. Et je veux dire, ça sert juste à faire des faisceaux de preuves. Il y a encore des juges censés. On n'est pas encore en Corée du Nord.
Oui, mais là, il y a aussi un truc où les juges sautent quand ils veulent faire des écoutes. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi.
Bon, on revient au débat.
Moi, j'ai la réponse à ta question.
Hein, ah, merci, Daz.
On revient au débat qui n'est pas justement le débat sur le projet de loi.
Non,
le débat, c'est.
C'est pourquoi on s'en fout.
Pourquoi les gens sur Internet, qui sont toujours souvent grande gueule, en fait, ont une sorte de.
Je pense que.
De sélection qui est pas.
Je pense que, en fait, le timing est parfait. Parce qu'en 2015, l'internaute moyen, en fait, a déjà sacrifié sa vie privée. C'est-à-dire que si ce truc-là était arrivé plus tôt,
oui.
Je reprends comme exemple à chaque fois le moment où la RATP a mis en place le pass Navigo, à la place de la carte orange qu'on achetait, qui était complètement anonyme, où les gens disent, mais attendez, ça veut dire que la RATP saura à quel moment je suis rentré dans une station, à quel moment j'en suis sorti pour me retracer, s'ils le veulent, etc. Ça avait fait un scandale. Ils ont dû s'engager à ne jamais regarder les données, etc., machin. Ce truc-là, la RATP le ferait maintenant, le pass oui. Navigo, tout le monde s'en contre-taperait, en fait.
Donc, d'une certaine manière, si les gens s'en foutent, c'est que, d'une certaine manière, la fin de la vie privée est déjà arrivée.
Elle est actée, parce que tout le monde utilise des webmails, donc ça veut dire que concrètement, tous tes mails sont stockés sur un serveur chez Google, si t'es sur Gmail, ou chez Yahoo ou autre, et que donc tu sais très bien que, enfin, moi, tu mets un truc sur un disque dur chez moi, je vais te dire que je vais pas regarder.
Oui.
Mais tu sais très bien que, il faudra pas grand chose pour que j'aille voir ce que t'as foutu dans mon disque dur, puisque c'est à moi. Et je pense que les gens, en fait, en utilisant ça, en utilisant Facebook, tu sais que tu uploads tes photos, elles sont sur un serveur aux États-Unis.
Donc, ce fameux débat qui était brûlant il y a quelques années, d'une certaine manière,
en fait,
il a été gagné ou perdu.
Je pense que les gens sont résignés. Les gens sont résignés, mais parce que ça leur permet plus de facilité au quotidien. Ah, j'ai envie d'envoyer une photo. Ok, elle est stockée chez Facebook, mais au moins je peux l'envoyer à mes potes pour en rigoler.
Donc, en fait, je pense pas que les gens aient accepté qu'il y ait une fin de la vie privée. Je pense qu'il l'a négocié. Il l'a négocié autrement. Et il y a une fronde il y a pas si longtemps que ça. Sur Facebook qui utilise des photos de toi pour faire des pubs, ce qui était d'ailleurs complètement faux, mais les gens sont partis dans la légende urbaine, etc. Et les gens se sont rebellés contre ça. Donc tu vois qu'ils négocient quand même différemment.
Ils ont fermé leur compte Facebook.
Ils ont fait suivre une chaîne de statut sur leur mur.
Ah, ok.
Mais c'est un acte, c'est quand même une action, tu vois.
Oui, ça change rien.
Justement, mais on parle du fameux slacktivisme qui est une sorte d'activisme fainéant. Mais il y a quelque chose, alors qu'on a l'impression sur ce projet de loi, à part des gens qui sont vraiment préoccupés par ce projet de loi, ça n'a pas du tout touché le grand public, alors que ça, c'est quelque chose d'important. Mais la piste de Daz est intéressante, c'est que d'une certaine manière, la vie privée est un débat moins brûlant qu'avant, puisque d'une certaine manière, on la donne depuis des années, et la blague du si toi le produit ou Facebook, blablabla, elle est un peu éculée aujourd'hui.
Il y a une conjecture de choses qui font que c'est notre Patriot Act. Il y a eu
le Patriot Act, c'est l'équivalent américain pour resituer les choses.
Il y a eu des actes terroristes. Qui sont encore. Vous allez place de la République, il y a encore des petites bougies là. Il y a aussi le fait qu'on l'accepte. C'est-à-dire qu'aussi, on n'arrive pas à imaginer, et moi non plus, je n'arrive pas à imaginer que, et d'ailleurs, j'en suis persuadé, qu'il n'est pas possible de traiter les données de chaque Français, et de les isoler, et de les interpréter de façon précise.
Voilà. C'est sur quoi prendre planche les Américains, de toute façon.
Ouais, mais aujourd'hui, voilà.
Donc, pour toi, en fait, on n'est pas tant choqué que ça, parce que d'une certaine manière, ça ne nous touche pas vraiment et qu'on sera noyé dans la masse. C'est pour ça que
il faut quand même un ultra narcissisme pour dire le gouvernement.
J'attendais ce point-là.
Le gouvernement a les yeux braqués sur moi,
moi et moi. Alors que, en plus, ils ont beaucoup de soucis.
En fait, tu veux dire, si j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à craindre. C'est ça.
Je veux pas
incroyable.
Rentrer là-dedans parce
que open bar,
aussi,
open bar c'est exactement quoi, ça. C'est...
Non, je dis plus ça, mais parce que j'ai peut-être des choses à me reprocher, mais mais en tout cas, je pense qu'il a mieux à faire. Voilà, le gouvernement.
Ok. Okay.
Coup, c'est triste quand même.
Ouais, c'est triste.
J'ai l'impression d'être à la fin de l'épisode 3 de la Guerre des Étoiles là, quand ils disent bon allez, prenez le contrôle. De toute façon, on a un problème de guerre à régler. On vous donne tous les droits et le mec crée l'empire quoi. Et
toi, tu viens de spoiler.
Vous aviez pas vu Star Wars. Merde. Je suis désolé. Non, mais je pense que enfin c'est quelque chose qui le côté ah moi j'ai rien à me reprocher donc j'ai rien à cacher. Je trouve ça absolument alarmant de penser.
On est revenu sur le débat d'origine.
Exactement. Enfin, on n'arrive pas.
On va passer au public. Et je voulais savoir si dans le public, il y a des gens qui se sont intéressés ou qui ne se sont pas intéressés à ce projet de loi et surtout de savoir pourquoi.
Petit sondage, qui allait manifester?
Nous non plus. Je savais même pas qu'il y avait une manifestation pour dire à quel point on s'est intéressé.
Moi, je le savais, je suis pas
allé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou justement a quelque chose à ne pas dire parce qu'il s'en fout? Bonjour.
Oui, rebonjour.
Rebonjour.
Moi, je pense qu'il y a un éminent problème de communication là-dessous, parce que j'ai fait une petite expérience in vivo. Je fais partie des gens qui mettent leurs friends Facebook dans différents cercles. Et je vois un peu étudier comme ça les bulles de conversation et ce qui se passe entre, en gros, le groupe de mes potes parisiens.
Tu expérimentes sur tes amis?
Voilà. Ce sont mes rats de laboratoire. et donc, je l'ai lancé entre eux. Donc, et j'ai le groupe des amis parisiens, journalistes, des gens qui traînent au tank et tout ça, qui en parlent beaucoup.
Ouais.
Et mes cousins au Creusot. qui vivent leur vie, et qui ont leurs iPads et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que, tous les gens qui se sont offusqués de ça me rappellent un peu ton pote, qui est toujours sous Linux, qui est barbu et qui dit ouais Windows, voilà. Ouais. Tu vois et en fait ils sont un peu en cercle fermé et je voyais Épée le Boin parler du truc.
Ouais.
Et je me dis mais le jour où il va voir mon cousin François Frédéric au Creusot,
ouais,
c'est Épée le Boin va être sur Pluton, il va même pas trouver les mots je pense pour lui
donc,
parler de ses
problèmes. Au-delà de ça c'est une sorte de débat de niche en fait.
C'est pour l'instant c'est un débat de niche et alors
un débat de riche.
Le truc aussi. Et le truc que disait Sylvain sur Oliver, qui trouvait des exemples un petit peu concrets, c'est exactement ce qu'ils ont besoin de faire, et je pense pas qu'ils le fassent assez. Enfin, je vais voir leur site, il y a des pétitions, d'accord, il y a beaucoup de trucs, donc, il y a les textes de loi, c'est
donc on revient en fait que, on parle beaucoup du slacktivisme, il faut qu'il y ait une forme de ludicité dans la cause et dans
bien sûr,
dans les manifestations, sinon les gens aujourd'hui ne suivent plus.
Il faudrait sortir de la technostructure législative, administrative, et parce que même si on nous dit, non mais attention, il y a le Conseil constitutionnel va être saisi, J'ai même pas envie, à la limite, que Valérie Giscard d'Estaing, même si je l'aime beaucoup, ou Jacques Chirac se penche sur le truc parce qu'ils vont rien capter non plus.
Oui.
Donc c'est là on arrive un petit peu à la limite de la démocratie old school.
Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou pas? Au fond, une réaction. Alors.
Ouais, c'est vrai que le débat en lui-même, il est très technique et du coup compliqué, donc je pense pas qu'il va être vulgarisé, même par les journalistes.
Mais justement, on trouve pas qu'il est vulgarisé en disant, du coup, le gouvernement, il pourra tout voir. Big Brother, tout ça, sont des mythes un peu que tout le monde comprend rapidement, non? Ou c'est parce que vraiment c'est technique?
C'est quand même hyper technique et abstrait, du coup. Par contre, ce qui peut être vulgarisé et plus facile à aborder, c'est des alternatives comme le réseau Tor qui pourrait devenir plus abordable. Des navigateurs comme Maelstrom de BitTorrent, enfin ce genre de choses, vous pensez pas que c'est les usages comme ça qui garantissent l'anonymat qui
concernant Tor en particulier, la DARPA est en train de créer un Google de Tor avec des bots qui ont des comportements humains. Donc
est en train de créer un Google de Tor avec des bots qui ont des comportements humains.
Camoulox. Moi j'ai tout compris, j'allais réagir comme si de rien n'était, tu sais.
Alors la DARPA, c'est les services de recherche militaire américains. Est en train de créer donc une sorte d'indexation du réseau Tor qui est normalement crypté. Et ils utilisent des robots, mais qui sont en fait des robots qui interprètent ce qu'il y a à l'écran comme si c'était des humains et non pas ils n'interprètent pas des lignes de code. Ce qui fait qu'ils sont en train d'indexer le dark web.
Et d'ailleurs, si vous êtes abonné à la page 404, la page Facebook de 404, vous avez lu cet article qu'on a posté.
Voilà.
Personne n'a lu.
Et si vous êtes déconnexionniste ou sur la PGL renseignement, n'hésitez pas à nous en parler sur la page 404.
Oh putain, la page.
Quoi ? Tous les liens sont en bas de la vidéo.
Mais c'est des cams. Comme disait monsieur, justement, c'est marrant parce que Tor, on commence aussi à en parler. Comme on parlait des VPN à l'époque d'Adopi, est-ce que ce sont aussi des manières d'intéresser les gens quand on leur donne tout de suite des solutions pragmatiques ?
Ah bah tiens,
ça,
c'est intéressant que tu en parles parce que Adopi, ça nous a tous fait peur.
Et Adopi, c'est rien, quoi. Ça, oui, ça nourrit des gens, c'est tout.
Ce qui est intéressant, c'est qu'Adopi, c'est aussi une sorte de législation. C'est il y a de la technique, il y a de la législatif, il y a du politique. Ça a intéressé plein de monde. Tout le monde s'est foutu de la gueule d'Adopi. Tout le monde avait des hashtags, il y a eu du lol-toshur dans tous les sens, etc.
C'est vrai.
Alors que ce projet de loi, il y a quasiment rien, en fait.
Il s'est rien fait. Et c'est pour ça qu'il y a
des gens qui ont quand même, hein.
Oui, oui, mais Adopi, avant même que Adopi se mette en marche, il y a eu des sortes de débats monstrueux et tout Internet était offusqué, etc. Et là, on a l'impression que, comme le disent les deux personnes en public qui sont intervenues, il y a des puristes ou des gens qui, de toute façon, s'intéressent à la chose, ont creusé la chose, comme Sylvain, ont survolé pendant 3 heures, la chose. À part ça, il y a rien. Alors que finalement, c'est très proche, d'une certaine manière, d'Adopi.
Bah, peut-être que le fait que Adopi soit passé malgré les protestations et les exigités des gens, peut-être que ça maintenant on est blasé en fait de l'inefficacité de nos actions face.
D'accord.
Face non, mais surtout droit. Adopi n'a pas empêché le téléchargement illégal qui est complètement démocratique aujourd'hui, qui est quasiment un droit citoyen puisque personne, les gens se sentiraient spoliés s'ils n'avaient pas le droit.
Spoilés.
Donc
spoliés.
Spoliés.
Ok.
Voilà. Donc c'est bien la preuve que.
Ce serait bien qu'Adopi envoie les fins des séries au
téléchargement. Ah ouais, c'est une super idée.
À la fin
au lieu de recevoir le courrier, putain, génial.
C'est une super, idée. Mail, super idée. En titre du mail, tu peux pas y échapper comme ça. Sixième sens, 2 points, pam pam pam. Une question. Oui. Rebonjour.
Rebonjour. C'est plutôt une réflexion justement oui. par rapport aux solutions pratiques qu'on peut trouver par rapport à ce projet de loi. Le problème, enfin un des problèmes parce qu'il y en a beaucoup, c'est que ça touche nos usages d'Internet, notre façon de téléphoner, mais pas seulement. On peut toujours surfer de manière anonyme. Comment on fait si jamais on a un mouchard posé sur sa voiture ou des caméras posées chez soi?
Ah, c'est vrai.
Il n'y a pas de tuto pour ça.
Non.
Ah, il n'y a pas de tuto YouTube?
Il y en aura. Mais c'est vrai, ça va générer toute une nouvelle activité en plus de. Enfin, si cette loi passe, c'est que effectivement, on se retrouve à des cas concrets de surveillance. De par exemple, on peut avoir des blogueurs un petit peu engagés qui vont faire un article de blog en disant on a
donc
posé.
Tu penses,
j'ai trouvé un micro dans mon téléphone.
Il faut aussi un cas qui touche les gens comme tu. On revient à cette.
C'est sûr. C'est trop abstrait, sinon c'est trop invisible pour l'instant.
Donc il faudra une Madame Michu ou un blogueur ou un journaliste qui tombe dans cette loi, qui en est victime, pour que les gens, enfin, aient une sorte d'illustration et donc
je pense, ouais.
Mais une prise sur le problème.
Je comprends pas cette histoire de mouchard sur des voitures. De toute façon, quand vous avez un iPhone, vous pouvez être tracé hyper facilement, de façon légale en plus, avec les Wi-Fi que vous captez.
Oui, en fait, t'es tracé.
Non, c'est quoi, c'est les bornes.
Mais c'est pas juste un iPhone, c'est n'importe quel portable.
Voilà.
En fait.
Donc, enfin, il y a déjà tous les dispositifs.
Oui, mais
on invente rien de nouveau, tu vois ici. On lui donne un cadre légal.
Ouais. C'est on l'autorise, quoi. Enfin, ça devient légal de faire ce genre de choses.
Fibre, on n'a rien à battre.
On a vraiment rien à foutre, quoi. C'est blasé. Allez, surveillez-moi.
Est-ce qu'il y a une dernière question d'intervention? Oui, monsieur. Donc.
Alors moi c'est plus une expérience en fait, vu que du coup en fait je suis développeur, donc ça explique pourquoi ça m'a touché un peu plus, parce que je suis développeur web, je fais des sites.
D'accord.
Et en fait ce qui est plutôt intéressant, c'est que dans mon cercle de développeurs, les 3/4 ils en avaient rien à foutre.
Ah donc même dans le cercle des développeurs qui est censé être un cercle qui est plus...
Qui devrait toucher en tout cas plus que d'autres, parce qu'en fait tous les gens qui étaient... peut-être plus informés, en fait, se sont résignés, comme disait Das tout à l'heure, disaient, mais de toute façon, enfin, ça fait des lustres qu'on sait qu'on est déjà sur écoute plus ou moins, que s'ils veulent récupérer nos données, ils le font, c'est juste qu'ils demandent pas l'autorisation, quoi. C'est juste que là, ils ont, enfin, plutôt que de rentrer, par la fenêtre, ils rentrent par la porte, mais ça changera rien, quoi. Ils sauront de toute façon. Donc, en fait, ouais, c'est vraiment plus comme Das disait, la résignation, tout le monde dit, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
D'accord, donc
qu'on dise oui ou qu'on dise non.
Ils le feront quand même.
Donc il y a une sorte de... Les gens sont en fait très conscients de ce qui se passe.
Mais en tout cas, dans mon cercle, ils le savent, c'est juste que ça les touche plus.
Eh ben dis donc.
Oh là là, c'est très...
Super, ouais, désolé.
Putain, finir sur une bonne note, ça fait plaisir.
C'est bon? Est-ce qu'il y a une dernière réaction ou pas? Oui.
Bah, en fait, c'est toute une réflexion sur... Est-ce qu'on est encore des citoyens? Voilà. Est-ce qu'on a encore un pouvoir? C'est la résignation, elle vient peut-être de là aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on a le pouvoir de dire non à ce genre de loi quelque part?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, donc, avec Adopi, on a énormément réagi et finalement la loi est passée et on a senti que nos actions n'avaient aucune incidence, aucune conséquence. Donc effectivement, est-ce qu'on a encore le pouvoir de s'opposer à des choses?
D'accord. Donc en fait, on en revient sur tous les derniers avis qu'on a écoutés sur le fait qu'il y a une sorte de conscience et de résignation sur des choses-là et qu'on se dit de toute façon on contournera au lieu de manifester, on contournera d'une certaine
manière. Peut-être, ouais. Mais allez quand même sur surveillance.fr pour appeler vos députés et sur signer la pétition sur ni pigeon ni espion. Et envoyez la fin des séries et des films cultes par la poste aussi. Ça sert à rien, mais ça pourra nous faire.
Envoyez-la au gouvernement, comme ça ils pourront saisir tout ça. Très bien. Merci Sylvain, on peut vous applaudir. Merci pour vos interventions en tout cas. C'est la fin de ce Studio 404 au Tank. Merci à nos amis du Chat-Ivre, le Chat-Ivre qui nous a fait un très bon brunch. C'est dur par audio de vous expliquer le goût de ce petit gouda et de ces petites keftas de ce
super bon
tartare de thon. En tout cas, on espère qu'on réitérera ça. On va libérer maintenant notre public qui va sortir, voir la lumière naturelle, se déconnecter un petit peu de tout ça. Encore merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette émission et on se retrouve le mois prochain. Ciao.
Merci.
Merci.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.